avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission On en jase, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, midi, une minute exactement. Ça sera une émission qui va être axée sur deux sujets principaux. Moi, je vais dire trois. La commission Galant, parce que le juge Galant est présentement en conférence de presse en train de présenter le tout. Alors, c'est plus de 600 pages. Beaucoup de gens quand même blâmés. Mathias va nous faire dans quelques instants un résumé. On va également parler de politique municipale parce qu'on vous a présenté un bon dossier vendredi avec le président du conseil de quartier Montcalm, Mathis Gagnon, concernant l'abattage d'arbres. Respect citoyen réagit aujourd'hui. Si vous avez lu sur Radio-Canada ou écouté Radio-Canada, ben, vous avez vu que la Ville de Québec va venir fouiller dans vos poubelles. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Ils vont-tu nous taxer pour ça, les écœurs? Marie-Josée Asselin, responsable au conseil exécutif de la Ville, va venir nous parler de cette opération. On va parler du couronnement de Charles Milliard avec l'ex-ministre libéral Christine Saint-Pierre. Et en fin d'émission, Moncef Déragé va venir donner son point de vue sur le rapport de la commission Galant. Avec une grosse émission à On en jase aujourd'hui.
J'ai hâte d'entendre Moncef Déragé sur la commission. On sait tout au long du rapport Galant, c'est un des politiciens qui était plus verbal, c'est un des politiciens qui venait plus dénoncer le déroulement et les dépassements de coûts du projet. J'ai hâte de voir, parce que selon moi, lui, dans ce document-là, il va avoir certaines choses qu'il aime, peut-être d'autres qu'il aime moins, parce que pour l'instant, les politiciens semblent bien s'en sortir.
Oui, exactement, c'est ce qu'on va parler évidemment dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Vous le savez, 418-971-101 pour nous joindre, vous êtes plusieurs déjà à l'avoir fait. Louis qui dit « c'est de valeur, ça va être 600 pages d'oubli ». Ouais, on va souhaiter que ça ne soit pas tabletté, mon Louis, justement, comme d'autres rapports l'ont été malheureusement dans le passé. BLVD.fm, c'est la web radio, c'est également nos meilleurs moments qui vont se retrouver directement après l'émission. Abonnez-vous à notre page YouTube. Le caucus avec Antonine Iaccarini déposé sur YouTube à chaque jour. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio, réagir via le chat également. Vous êtes plusieurs qui sont présents ce midi. C'est signe que vous voulez entendre l'excellente analyse d'Antonine sur sa clique. Et également App Store et Google Play Store, l'application. Téléchargez l'application. Et vous allez pouvoir nous écouter partout où vous allez au Québec. Au parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD ». Mathias, on appelle ça une éclipse médiatique.
Oui.
C'est le rapport de la commission Galant qui prend toute la place. Est-ce que tu veux nous résumer en tant que tel qu'est-ce que le rapport contient? Par la suite, on analyse le tout avec Antonine dans le caucus.
Oui, le rapport qui a été... en fait, la commission Galant qui a été députée à la suite des dépassements de coûts dans le dossier SACLIC. Là, on parle du double du coût du projet initial. Puis là, on a le rapport qui est sorti, donc les résultats de cette commission-là. Ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il a Société de l'assurance automobile du Québec a menti pendant des années durant tout le processus de transformation numérique. Le commissaire Galant qui arrive à la conclusion que justement la Société d'État a envoyé plusieurs suivis annuels qui étaient hypocritement rassurants aux élus. Donc on tronquait les chiffres. On donnait pas nécessairement les bonnes données ou on manipulait la façon qu'on donnait ces données-là aux élus. Celui qui est plus écorché, c'est bien sûr Carl Malenfant, l'ex-vice-président aux technologies de l'information. On dit que son nom figure 506 fois dans le rapport de 600 pages. C'est presque une fois par page. Donc, vous devinerez qu'il en mange une sincère, mettons. Également, le Journal de Québec qui annonçait aussi que le sous-ministre Éric Kerr a contribué à l'indisponibilité de l'information parce qu'on dit qu'il se désintéressait du projet en soi.
Sans surprise, Antonine, la SAC mange le gros des coups de la part du commissaire Galant. Je dis sans surprise parce que c'était à prévoir. Le juge Galant, je te ramène au témoignage de Denis Marcellet en juin dernier, en juin 2025. Denis Marcellet qui était le PDG de la SAC au moment du déploiement de sa clique. C'était fait ramasser par le juge. On écoute.
Moi, honnêtement, je vous le dis, je trouve que ça fait dur. Mm. Je suis très candide à votre endroit. Je trouve que ça fait dur, ça.
Je n'ai pas d'explication à vous donner là-dessus.
C'est... Alors, est-ce que c'est... Pas d'explication, vous ne l'avez pas vu, mais est-ce que c'est un plan machiavélique pour le cacher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Là?
Sûrement pas. En tout cas, pas ce que je sache, parce que je n'aurais pas jamais accepté de faire ça.
On revient avec les fameux napperons. Vous vous souvenez?
Oui, c'est rendu tabou, les napperons.
Exactement. Où les indicateurs auraient dû être au rouge, mais ils étaient tous mis au vert. Et c'est là qu'on avait compris que le juge Galland allait blâmer sévèrement la SAC parce que ça n'a pas d'allure présenter de la fausse information à nos parlementaires.
Oui, exact. Dans le fond, c'est une histoire qui est complexe. Il faut comprendre que c'est un projet qui s'est déroulé sur une dizaine d'années. Fait que c'est sûr que médiatiquement, c'est dur d'encapsuler une histoire compliquée avec plusieurs dimensions dans une ligne simple. Donc là, tu sais, je regarde un peu comment le rapport est en train d'être couvert. C'est sûr que la SAC est la plus blâmée, mais ça ne veut pas dire que les élus sont au-dessus de tout reproche. Il faut quand même comprendre qu'il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises par de nombreuses personnes à de nombreux moments. Mais la, disons, la faute originelle, là, celle qui a mené à ce qu'on ait un déploiement qui a été catastrophique et qui a contribué finalement aussi à des dépassements de coûts. Les dépassements de coûts, il y en avait qui étaient déjà en cours bien avant le déploiement, mais c'est sûr qu'un déploiement catastrophique, ça a aussi provoqué une demande de ressources supplémentaires pour gérer la crise. Ça, c'est le bout de Geneviève Guilbeault. Donc, rapport qui est très, très attendu, dans lequel on comprend que, en fait, on a la confirmation que la SAC a menti aux parlementaires, a menti au ministre qui était en place à l'époque, M. Bonnardel en premier, puis par la suite, Mme Guilbeault, qui a été informée en 2023. Mais 2023, je veux juste vous indiquer, c'est le moment où on déployait, puis il y avait des files d'attente dehors. Là.
Oui, exactement. En plein mois février.
Tard, là.
En plein mois février, des files d'attente dehors, et ça, tu nous en parlais hors d'onde, puis Carl Malenfant l'avait expliqué aussi lors d'une entrevue à la presse, où il disait, moi, il y avait des files dehors, mais ça allait bien.
Ça allait bien. Tout va bien.
Ça allait bien, ce projet-là.
La SAC nous avait même dit que ça aurait pu être pire. Vous vous rappelez de ça? Donc, en gros, ce que M. Galland conclut de tout ça, là, c'est que c'était trop gros comme projet. Mm-hmm. Trop vite, mais moi, c'est drôle, je trouve pas que c'est allé vite. Je trouve que c'est allé très lentement pendant longtemps, puis que tout à coup, là, tout pressait, puis là, il fallait sortir le chéquier.
Bien, l'urgence. Hein?
Ben, c'est
l'urgence
ça.
Est arrivée parce qu'on n'avait pas bien avancé les étapes. Là, maintenant, on s'est dit, parce que souvenons-nous, on était censé le déployer en 2022. On a retardé en 2023. Ça a déjà été retardé une fois. Fait que là, on ne voulait pas le retarder deux fois. On a travaillé en urgence, on a travaillé tout croche.
Et à l'époque, quand Mme Guilbeault est arrivée comme ministre des Transports, elle s'est fait dire, bien, tout est correct. On va être correct pour le lancer. Donc, elle s'est dit, bon, ben moi, je connais rien là-dedans. On me dit que c'est correct. Puis là, on me dit que si on repousse encore, il va y avoir des frais supplémentaires. Mais je veux pas qu'il y ait des frais supplémentaires. C'est un peu comme si tu avais commencé à rénover ta cuisine. Ton chantier s'était étalé sur des années et des années. Et là, tout à coup, ben les tuyaux coulent, il y a de l'eau qui coule partout. Puis ils te demandent, tu sais, est-ce qu'on rajoute des ressources pour régler le problème du tuyau qui coule partout, puis qu'il y a de l'eau, il y a un pied d'eau dans ta cuisine? Bien sûr que tu vas sortir le chéquier pour payer rendu là. Il est trop tard. Donc là, une fois qu'on a identifié des coupables, donc la direction de la SAC qui a menti, ils ont tout mis beau pendant des années, puis ils ont finalement pelleté par en avant les problématiques, parce que ça sert à rien de casser, de cacher ça. Un jour, ça allait finir par paraître. C'est tellement niaiseux.
Carl Malenfant, évidemment, est blâmé aussi, parce que c'est lui le grand architecte.
Et Éric Kerr, Mathias le disait, Éric Kerr, qui a décidé d'un peu ignorer. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il voyait bien... Tu sais, ça, c'est la SAC, c'est une société d'État. Je suis pas responsable de cette affaire-là. Puis je pense que je suis aussi bonne de ne pas mettre les mains là-dedans. Ce sera pas de ma faute. Si
je t'ai fait écouter un petit 11 secondes, justement, d'Éric Kerr à la commission Galland.
Sur le dépassement de coûts, l'information que j'ai, elle est floue. Elle n'est pas quantifiée. Alors que sur le report de l'échéancier, ça, bien, on le sait, là, c'est un...
Hey, Antonine, on peut-tu encore faire un plus un, fait deux, s'il vous plaît? L'échéancier est repoussé, mais c'est flou sur le dépassement de coûts. Écoute, c'est sûr qu'il y a un dépassement de coûts. On repousse.
Il faut être juste avec Éric Kerr. Si c'était flou pour François Bonnardel puis pour Geneviève Guilbeault, ça a dû être flou pour Éric Kerr.
Ouais,
maintenant, je m'attends à ce que le ministère de la cybersécurité et du numérique gère les projets et qu'il y ait une vision claire de tout ça. Donc, s'ils n'ont pas une vision claire, ils devraient talonner les sociétés d'État. Puis là, il va y avoir des recommandations. Il y a des recommandations dans le rapport pour mieux faire. Notamment, une des recommandations dans le rapport, c'est qu'il y a une entité centralisée. C'est supposé d'être le ministère, ça, là. On n'a pas besoin de la créer, il faut juste qu'elle fasse sa job. On dit que les règles d'appel d'offres ont été contournées. On dit qu'on a un modèle qui favorise les dépassements de coûts. Donc, ce n'est pas seulement ce projet-là. Puis on en parlait tantôt hors d'onde aussi avec Mathias parce qu'il me disait, là, je m'excuse, mais c'est pas le seul projet qui a des dépassements de coûts.
Ben
là,
non,
c'est
là.
Bien beau que la SAC ait menti,
santé,
mais ça ne doit pas être juste ça.
Aussi, non?
Donc, exactement. Et que ainsi, on a de la difficulté à connaître le coût final. Donc, on revient à la base ici. On démarre mal les projets parce qu'on n'a pas de compétences. dans l'appareil gouvernemental. Et une fois qu'on a identifié le besoin de façon tout croche, parce qu'on n'est pas capable, on fait un appel d'offres tout croche. Il y a des compagnies qui bident sur les appels d'offres, sachant que c'est toujours tout croche au gouvernement. Donc, peut-être aussi qu'ils se mettent un petit peu de lousse, parce qu'ils se disent,
ben oui,
c'est tellement de la chenoute de gérer avec le gouvernement, c'est pas vrai qu'en plus, ça va me coûter de l'argent, je veux faire ma marge de profit. Puis là, après ça, on n'a pas de gestion de projet et on doit compter sur la bonne foi de la société d'État pour nous faire un portrait et il n'y a pas de mécanisme de surveillance. Donc, puis c'est tellement long que finalement, impossible. Je m'excuse, mais un projet sur 10 ans, tu ne peux pas me dire combien ça va coûter à la fin. C'est impossible.
Non, c'est impossible. C'est pour ça que le juge Galland mentionne qu'on devrait faire des plus petits projets. Donc, pas faire une grosse machine comme ça clique, mais faire plusieurs petits projets à l'intérieur de ça, de 50 millions maximum, qui permettrait justement de ne pas vivre des dépassements de coûts de 500 millions. Mais d'un autre côté, puis là, je me fais l'avocat du diable, et 418-971-101, jamais il y a des gens qui se connaissent plus que nous en informatique. Enfin, je me dis, à un moment donné, il faut que tes systèmes se parlent.
Ouais,
fait que
mais...
si tu fais toujours un petit système avec un petit système, il me semble que...
Oui, mais quand tu fais un bon projet... Tu vas faire les blocs un après l'autre qui vont s'emboîter les uns dans les autres.
Ah ouais, puis là, tu vas sortir des contrats ciblés pour ça.
La SAC, ils nous ont dit que c'était énorme parce qu'on avait 12 000 systèmes, puis tout était papier, puis il y avait des doublons. Puis OK, moi, je connais des compagnies, là. Ils refont les systèmes chez des compagnies aériennes, des compagnies de cartes de crédit. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas shotter down pendant 3 semaines, puis ça marche. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose, quelque part, qu'on ne fait pas correctement.
Ben, je reviens au questionnement que j'ai eu pour toi tout à l'heure, justement. Il y a quelque chose qu'on fait pas bien. Est-ce que ça se pourrait que cette chose-là qu'on fasse pas bien, c'est que les personnes qui soient au-dessus, les personnes qu'on met en charge de ces projets-là, parce qu'on voit Carl Malenfant, c'était 48 allégations de mauvaise conduite au cours du projet. Son nom se retrouve 500 fois dans le rapport. Est-ce que c'est que ces personnes-là sont pas qualifiées? Puis si c'est le cas, est-ce que c'est parce que les salaires sont pas assez conséquents pour le poste que ces personnes-là occupent?
Bien, en fait, oui. Si on regarde le salaire de Carl Malenfant dans les dernières années chez Hydro-Québec ou à la SAC, ça ne vous fera pas pleurer personne à la maison, OK? C'est des bons salaires.
Ouais.
C'est juste que tu as le choix. Là. Toi, tu es ingénieur informatique, tu es hot, tu es bon. Tu as le choix d'aller travailler au gouvernement avec des technologies dépassées, avec des processus qui sont longs, avec des méthodes de travail qui ne sont pas agiles, avec de la reddition de comptes, puis que tu peux te retrouver en commission d'enquête en passant. Ça, ça,
bon, oui, en effet.
Payer 25% moins cher que dans le privé.
Mm-hmm.
Bon, t'as une sécurité d'emploi. Mais c'est où tu vas aller?
Mais non, tu n'y vas pas.
Travailler avec des gens compétents, avec des technologies
les
modernes.
Les kingpins en informatique sont tous au privé. Puis malheureusement, au public, on se ramasse avec des gens qui n'ont pas l'ensemble des compétences requises.
Et c'est pas réaliste d'avoir dans chaque ministère des kingpins. Alors,
non.
Je reviens au ministère, l'ancien ministère d'Éric Kerr, maintenant de Gilles Bélanger. Les kingpins doivent être concentrés et partagés et ils doivent superviser tous les projets.
Mm-hmm.
Et ce n'est pas réaliste de dire « on va faire tout au public ». Ça n'arrivera
non.
pas. On a besoin du privé. Alors, il faut apprendre à bien travailler avec le privé pour ne pas se faire avoir, pour ne pas que ça nous coûte trop cher, pour ne pas être dépendant d'une seule compagnie, etc., etc. Il y a des gens qui connaissent ça. Moi, ça fait des années que je radote, et je vais le radoter encore, qu'on a besoin d'un comité consultatif. Vous avez dit, un comité consultatif, c'est plate.
Oui, tu nous fais encore des comités pour
entendre. Des comités, parce que je suis une
vieille
piquette.
On dit que c'est plate, les comités.
Mais de gens qui arrivent du privé et du milieu académique, OK? Donc, des experts qui vont regarder les appels d'offres et la définition de besoins, qui vont dire, ça ne fait aucun sens, ça. Vous allez dans le mur avec une affaire de même. Voici ce que vous devriez faire. Évidemment, les gens qui regardent les appels d'offres ne peuvent pas bider après sur l'appel d'offres. Sinon, tu
en
fais
effet.
Les appels d'offres pour ta compagnie, ça ne fonctionnerait pas. Donc, tout ça pour dire qu'on a du pain sur la planche et ce rapport-là doit vraiment être appliqué. Et il ne faut pas laisser les partis se sauver puis qu'on parle juste d'immigration puis de prières de rue, OK? Dans les
prochains mois. Non.
C'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres et ça va continuer. Et si on n'outille pas les ministères, les élus, les fonctionnaires à mieux faire les projets informatiques, ce qui va arriver, c'est que quand, mettons, toi, tu arrives, tu es un nouveau sous-ministre ou un nouveau ministre, OK? Tu arrives en poste. Là, on t'annonce qu'il faut que tu fasses une modernisation d'un système informatique, un virage numérique quelconque. Tu vas dire... Hey, ça peut-tu attendre? Parce que ça me tente-tu pas de me retrouver dans une commission d'enquête dans 2 ans, moi? Hey, ça me tente pas. Non. Fait que là, on va accentuer le retard technologique du gouvernement. Donc, c'est essentiel qu'on mette des mesures en application. Et il faut faire attention aussi pour pas que ça devienne juste une patente avec plus de bureaucratie, plus de délais, plus de processus. Fait que c'est tout un défi là, qui nous attend.
Ah, moi, je verrais un groupe de 2-3 Top Gun. Puis là, je sais que Top Gun, c'est pas très à la mode à cause de Santé Québec, là, mais... les trois meilleurs programmeurs, gestionnaires de projets au Québec en informatique leur donneraient 10-15 millions par année. Puis je leur dirais, gère-moi ça. On va perdre moins d'argent.
Ce serait
puis on va s'assurer. Hey, c'est 500 millions qu'on a perdu dans cette ligue. Fait qu'imagine si je
ça,
pas...
c'est un projet, là.
C'est ça.
Additionne tous les fiascos qu'on a eus dans les dernières années. Et je ne vous parle pas du fédéral parce que. Comme
exactement.
Vous savez, c'est
ouais, 6,6 milliards présentement, QRAM. Mais tu imagine si on pogne, mettons, on paye 20-25 millions de masse salariale à trois Top Gun, qu'eux autres s'assurent que tout aille bien. On sauve des. Au moins un milliard de
des
dollars.
Milliards.
Ouais,
je
on sauve au
toi.
Moins un milliard de dollars. François Legault, j'ai réécouté son témoignage à la commission Galland ce matin. J'ai réécouté le 7 minutes où il échangeait avec le commissaire à la fin, justement, de son témoignage. Il avait dit ceci, je veux t'entendre après, Antonine.
Je pense qu'au Québec, on a du travail à faire autour du mot « imputabilité ». Il faut que tout le monde soit plus imputable. Et, ben, il y a encore des changements de mentalité à faire dans fonction publique, puis même dans le gouvernement.
Et on écoute Geneviève Guilbeault lors de son passage à la commission Galland.
De ça. Je me souviens pas, j'ai pas de souvenir, tu sais, c'est un peu comme l'autre page, j'ai pas de souvenir spécifique, de conversation spécifique sur une page spécifique. J'ai aucun souvenir, j'ai pas le souvenir, moi, expérientiel dans ma mémoire. Je peux pas avoir de souvenir exact, j'ai pas de souvenir plus précis.
Je savais pas que le mot souvenir expérientiel existait avant que Geneviève Guilbeault passe à la commission Galland. Moi, je trouve ça très intéressant que François Legault parle d'imputabilité, mais dis-moi, est-ce que il y a des gens qui vont être imputables au niveau des ministres, au niveau du gouvernement.
Est-ce que tu parles
ou
du passé
ça va
ou
encore...
du futur?
Ben,
ou du présent?
Ben, je vais te parler du présent avec le rapport de la commission Galland, puis surtout du futur.
La réponse est non. Il n'y a pas une personne de responsable. On peut pointer le doigt sur Carl Malenfant, mais on peut aussi se demander pourquoi les ministres n'ont pas été plus vigilants, plus curieux.
Ben, c'est ça. Tu sais, Éric Kerr, François Bonnardel, Geneviève Guilbeault...
Le ministre des Finances. Le Trésor.
Le Trésor, tu sais... Tout ce beau monde-là aurait dû voir avec un report d'un an.
Oui, il aurait dû. Mais tu le sais, Jeff, tu as été gestionnaire. Quand tout le monde est un peu responsable, personne n'est vraiment responsable.
Je le sais.
Alors, il faut s'assurer que ça soit bien clair. Toi, tel ministre, si ce projet-là s'en va dans le ditch, c'est toi qui es responsable.
Ouais.
Moi, si quelqu'un me dit ça, là, je pense que je vais surveiller un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas me dire, ah ben, ça doit être Éric Kerr. Je ne sais pas, moi. C'est de l'informatique, ça doit être Éric Kerr. Ou ça, c'est le Trésor qui a donné les fonds. Ça doit être le Trésor qui est responsable.
Il faut que le projet soit attitré. Moi, tu sais, j'ai travaillé 10 ans pour une société publique qui est la RTC. Et puis, les projets étaient attitrés à une personne. Donc là, tu n'as pas le choix que le projet se ligue.
Tu le sais qu'il va être dans le chenoute si ça ne marche pas. Puis, l'autre affaire, là, puis là, en plus que ce n'était pas clair. François Bonnardel, il était responsable de la SAAC pendant la pandémie. Okay, moi, je me rappelle, pendant la pandémie, la SAAC t'appelait puis ça répondait juste jamais au téléphone. Non. Ça a été le bordel. Je pense qu'il gérait plus ça que le virage informatique qu'il va avoir lieu dans 3 ans. Mm-hmm. Mais d'accord? Puis Geneviève Guilbeault, elle est arrivée puis c'était fini. Donc, il y a comme... C'est comme si tout avait... Tout s'était déroulé de façon à ce que ça tombe dans le crack. Puis je sais que c'est fou de se dire 500 millions de dépassements dans le crack puis un fiasco comme celui-là.
Ouais.
Mais faut que tu additionnes tous ces petits picots-là, là, puis c'est ça que ça donne comme portrait. Manque de responsabilité, on ne sait pas c'est qui la dernière personne qui est responsable, des mensonges, des gens mal intentionnés, un projet qui est trop long, plein de gouvernements qui se succèdent, et ça donne le résultat qu'on connaît.
Donc, pour que quelqu'un soit imputable au sein du gouvernement, la prochaine fois qu'on va avoir un dossier informatique comme celui-là, parce qu'il va en avoir d'autres et il y en a déjà, c'est de dire « OK, c'est beau, c'est toi, Gilles Bélanger, le ministre de la cybersécurité, transformation
numérique. » Puis en échange, les gens vont te faire une reddition de compte serrée. Puis si tu n'as pas les informations dont tu as besoin, tu mets un projet, bing bang.
Parce que je te lis une citation de Régis Labombe dans La Presse, qui était par rapport au leadership de Pablo Rodriguez, mais je pense qu'il peut bien s'implanter aussi avec le dossier de Satlick. « J'ai toujours pensé qu'il n'y avait qu'une manière efficace comme leader d'éviter les problèmes de probité en politique. Avertir tes candidats, tes élus et ton entourage qu'à la première faute, on ne les défendra pas et qu'ils seront congédiés ou exclus de l'équipe. » Oui, ça peut paraître bête, mais c'est ça, c'est ça la vraie vie.
Définis faute,
là.
Par exemple.
Oui, oui, exactement.
T'sais, une faute, c'est... Ça peut être d'être négligent, mais ça peut être d'avoir sciemment caché quelque chose,
ouais, en effet.
Sciemment fait une faute. T'sais, c'est... Parce que c'est dur faire de la politique en passant. Puis encore une fois, je sais que c'est pas tout le monde qui va pleurer à la maison, mais tu as beaucoup de dossiers en même temps. Il ne faut pas penser que les ministres géraient ça 24 heures sur 24. Ils étaient face à des gens à la SAAC qui voulaient que ce qui soit retenu dans les briefings qu'ils donnaient, c'est que tout allait bien.
Ouais.
Tout allait bien.
Continuez à interagir au 418-971-101. Audrey qui écrit « Ouais, l'imputabilité, c'est François Legault en premier lieu, j'aime bien. JP qui écrit « Bon, on va ressortir une autre nouvelle structure pour aider à la structure qui ne marche pas.
Ouais. »
C'est ce qu'on souhaite
c'est
pas, là, justement.
Hein, c'est
exactement.
Ça.
Continuez, vous êtes énormément à réagir. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini, caucus qui a lieu du lundi au jeudi de midi jusque vers 12h30. Antonine, faut que je te parle de Charles Milliard qui a été couronné hier à Trois-Rivières devant 600 militants en feu.
Vive le roi!
Ah oui, on s'est remis à crier PLQ, PLQ. On avait oublié Pablo, on avait oublié la corruption. Mais il y a une question d'un journaliste après le point de presse qui m'a vraiment dérangé. Je te la fais entendre, je te fais entendre la réponse de Charles Milliard et on s'en parle par la suite.
Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à élire un premier ministre qui est homosexuel?
Ah, ben mon Dieu, on verra bien. Les Québécois, chaque Québécois a le droit de vote. Moi, j'ai voulu aller en politique. La politique, c'est faire une chose publique. Et je n'avais pas l'intention de me cacher par rapport à qui je suis pour les Québécois. Alors, ils jugeront, mais à voir le tonnerre de soutien que je reçois pour une nouvelle qui apparemment est nouvelle, mais qui ne l'est pas. Ben voilà, je pense que ça me remplit d'espoir. Puis s'il y a des jeunes qui nous entendent et qui se reconnaissent là-dedans, ben grand bien leur fasse.
Alors, la question était, est-ce que les Québécois vont être prêts à élire un premier ministre homosexuel? Hey, là, on est rendu ailleurs, là, depuis les années 70.
Ouais, cette question-là a fait pas mal réagir parce qu'on se demande, c'est quoi la pertinence
ben,
en fait, de
ça,
poser
là.
Une telle question. En même temps, c'est pas faux qu'il y a encore des gens homophobes au Québec.
Mmh, oui, je sais, malheureusement.
Donc, est-ce qu'il y a des gens que ça pourrait empêcher leur choix de premier ministre, étant donné que leur orientation sexuelle, ça doit brainstormer quelque part, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un gigantesque enjeu. Puis là, je veux dire, avec l'élection de Charles Milliard comme chef du PLQ, on a deux chefs des partis principaux qui sont ouvertement très ouverts sur le fait que c'est
oui.
ça leur orientation sexuelle.
Éric Duhaime et Charles Milliard.
Éric Duhaime, puis tout le monde s'en fout. Fait que c'est merveilleux. Puis je suis très fière de vivre dans une nation dans laquelle n'importe qui peut devenir chef de parti puis que c'est pas ton orientation sexuelle qui va changer quoi que ce soit là-dedans.
Je suis tellement d'accord. Charles Milliard est en entrevue ce matin avec nous à Marceau le matin. C'est disponible sur blvd.fm. Je te fais entendre un extrait où tu dis, c'est lui le boss.
J'ai pris connaissance du rapport Fournier là, qui avait été commandé par le parti la semaine passée. Alors on verra les autres instances, ça arrive quand. Mais là, je peux pas prédire le résultat. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que là, les militants du Parti libéral m'ont donné les clés de la maison en fin de semaine. Fait qu'à partir de ce matin, ben ça va se passer à ma façon. Alors, je vais donner des directives claires sur mes attentes, sur les valeurs qui sont les miennes. Et puis, tous les gens qui se sentent appelés par ça, ben sont bienvenus. Puis tous ceux qui se sentent pas appelés par ça, ben pourront aller faire d'autres choses.
Ils pourront aller faire d'autres choses. Ça va se passer à sa façon, puis les gens pourront aller faire d'autres choses. Il n'y a pas le choix de immédiatement tracer la ligne avec le financement parce qu'il arrive dans un parti qui, pour la deuxième fois, est entaché là, par des histoires de financement douteux.
Oui, puis M. Milliard a plusieurs défis devant lui, donc il faut qu'il ait l'air en contrôle, confiant. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique. Il a une expérience intéressante, mais ce n'est pas une expérience politique. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il devait tracer une ligne dans le sable. Les défis de M. Milliard, ben, premièrement, ça va être d'exister. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de course. C'était un couronnement. Donc, une course à la chefferie, c'est toujours une occasion de rayonner pour un parti politique. Des fois avec des chicanes, mais souvent aussi avec des propositions, avec des trucs qui sont positifs, des rassemblements remplis de militants, une augmentation du membership, etc. Ben là, il n'y a pas eu ça. Il y en a eu une l'année passée et on sait comment ça s'est terminé. Il doit recréer l'unité. Donc, il faut quand même qu'il soit gentil et doux pour ne pas mettre le bordel en arrivant. Mais il faut quand même qu'il soit ferme en même temps pour que les gens aient envie de le suivre puis qu'il démontre un leadership. Sa première décision, on en parle depuis plusieurs jours, mais ça va être pour Marois Risky.
Ouais.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de réintégrer Marois Risky. Je pense qu'elle-même ne devrait pas vouloir réintégrer ce caucus-là alors qu'il reste tellement de choses en suspens.
Hey, d'un autre côté, je te challenge là-dessus. Marois Risky, la politicienne la plus respectée au Québec, si elle ne réintègre pas, T'sais, on parle du vote francophone.
Je pense que les désavantages dépassent présentement les avantages. De toute
façon,
Mme
Risky,
elle ne sera pas capable de faire son travail sans qu'on lui parle de ce qui se passe avec Geneviève Hinze, sans qu'on ait envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement puis comment ça va avec M. Rodriguez. Pour moi, elle va être une distraction, Mme Risky. Et de toute façon, elle ne se représente pas. Donc moi, si j'étais elle, je me dirais, pourquoi je vais... dans le fond, je pourrais terminer sur une note où est-ce que je suis députée indépendante, je vais pouvoir déposer quelques motions en mon nom, etc. Mais plutôt que de rentrer dans un caucus où tout le monde l'attend avec une brique puis un fanal. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais à sa place.
Oui, mais je comprends à l'interne du parti politique, mais je te parle de l'image.
Oui, mais c'était ça aussi la motivation de Pablo Rodriguez quand il l'a prise comme chef alors que les gens disaient, êtes-vous sûr, M. Rodriguez, que c'est une bonne idée étant donné qu'elle va prendre la place puis qu'elle ne travaille pas super bien en équipe selon ce qu'on entend.
Oui, mais je t'explique mon...
on a vu ce que ça a donné.
Je t'explique mon point de vue. C'est qu'elle a une image très positive auprès de la population et malgré ce qui est arrivé, oui, au niveau politique. Pour les politiciens, les mordus de politique, comme moi puis toi, on se dit, ils griffent. Elle a joué sale. Mais monsieur puis madame, tout le monde dans leur divan aujourd'hui, là, ou qui nous écoutent, là, qu'est-ce qu'ils se disent de Marois Risky? Ils se disent, aha! Les libéraux étaient des corrompus et elle l'a démontré.
Mais ça changera rien.
Donc, Marois Risky, elle est droite. Oui. Alors, si Charles Milliard la réintègre pas, moi, dans ma tête, ces gens-là vont dire, regarde-moi la gang de corrompus, ils l'excluent encore.
La réintégrer, ça changera pas ce qui s'est passé.
Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus.
Pas mal ça. Deuxièmement, tu dis, il y a juste les mordus politiques qui ont un doute sur Madame Risky. Madame Risky, tout le monde l'aimait. Et là, ce qui s'est passé, bien là, les gens sont divisés maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent de l'aimer puis qui disent, voyez, elle était droite et elle s'est battue pour l'éthique et nanana. Mais il y a une partie des gens maintenant qui disent, wow, c'est spécial là, de mettre la directrice de cabinet que c'est pas vraiment toi qui es supposé de choisir dehors puis de se tarer dans le silence par la suite. Donc, moi, je trouve que c'est une bombe à retardement, cette affaire-là. Puis je suis pas d'accord que... à un moment donné, l'externe, c'est correct, là, mais si la plupart des chroniqueurs, par exemple, des journalistes, la madame dans son sofa, à un moment donné, c'est le fun, mais l'information ne se rendra même pas parce qu'on va être constamment dans des diversions. Donc moi, je pense que le chef, la bonne décision, ça serait de miser sur ces forces vives qui sont restées dans l'unité du caucus. Je pense à des André Fortin, à des Marc Tanguay, à des Monsef Deragy, qui ont continué de travailler en équipe, même quand c'était difficile. Hey, Monsef Deragy, puis vous le recevez en entrevue tantôt.
Oh oui.
Tu sais, je veux dire, ça n'a pas été facile pour lui, là, l'arrivée de Pablo Rodriguez. Il a perdu un poste qu'il aimait beaucoup. Il s'est fait dire coucou,
puis je suis pas le... encore avec Charles Milliard.
Il leur parle, mais est-ce qu'il est parti tout seul de son bord avec un ballon puis mettre son équipe dans la chenoute? Pas du tout.
Je comprends tout ça, mais
solidaire.
Moi, je comprends, mais moi, je te parle en termes d'image. Je suis convaincu que s'il ne réintègre pas Marois Risky, il y a
deux
plusieurs francophones qui vont se dire « Gamme-moi la gang de corrompus », puis ils n'ont pas le choix d'aller chercher le vote francophone, les libéraux.
Moi, je pense que c'est un meilleur investissement à long terme parce que effectivement, ça serait... C'est comme... Marois Risky, là, c'est comme une Ferrari, là. C'est juste que tu peux pas contrôler ta Ferrari. Fait que là, tu peux t'essayer, tu vas aller bien, bien vite. Mais ça se peut que tu finisses dans le mur.
Mais vous parlez de soit la réintégrer ou non. Mais est-ce qu'il y a comme une troisième option ou que, sans faire une sortie conjointe, que les deux, on comprenne qu'ils se sont parlé, puis qu'ensemble,
ils sont
pas en chicane, il y a eu une discussion entre les deux, puis ensemble, ils ont conclu que c'était préférable que Mme Risky reste en dehors du caucus.
Regarde comment, t'es comme la troisième voix. Tu sais, moi puis Jeff, on était full polarisés, là, puis là, toi, t'es arrivé avec une solution.
Mais c'est la preuve que ça prend la CAQ.
Non, mais ça pourrait-tu arriver, ça?
Non, mais c'est une bonne option.
Mme Risky, est-ce qu'elle pourrait faire une sortie, dire « J'ai discuté avec M. Milliard, mais je préfère rester en dehors du caucus. » Est-ce que ça pourrait être une option?
Moi, je trouve qu'elle devrait faire ça. Moi, honnêtement, je trouve pas que c'est à son avantage de se remuseler une autre fois dans un caucus qui est probablement en partie hostile de toute façon à elle. Quand t'es député indépendant, tu le sais, là, on a reçu Maïté Blanchette, on a reçu des députés indépendants dans les derniers mois.
Tu dis ce que tu veux.
T'es à liberté de parole. Bon, Mme Risky ne veut pas utiliser sa parole ces temps-ci, ça lui appartient, mais... éventuellement, sur certains dossiers, elle pourrait vouloir les porter. Puis moi, je pense que ça serait la meilleure solution pour tout le monde. Un autre défi, puis tu le disais, c'était de reconnecter avec l'électorat francophone et les régions. Effectivement, ça va être un défi parce que le caucus que M. Milliard vient de gagner avec son couronnement, bien, c'est un caucus qui est très montréalais, même très anglophone. Il va falloir très rapidement qu'il annonce des candidatures ou qu'il... En tout cas, il ne peut pas faire tout seul. Fait qu'il va falloir qu'il s'entoure. T'sais, on voit Paul Saint-Pierre Plamondon qui annonce des candidats depuis déjà quelques mois déjà. Je pense que ça va être un gros défi aussi pour M. Milliard.
Il y a un auditeur ou une auditrice qui nous écrit « Pour moi, ça sonne qu'il va encore y avoir de la corruption dans ce parti-là. La seule qui s'est levée devant la corruption s'est fait « out ». Tu vois, c'est ça que je pense,
mais
que les gens pensent.
Attendez, là. S'est-elle levée contre la corruption? Nous ne le savons pas. C'est l'histoire qu'on se construit dans notre tête. Elle a mis dehors une directrice de cabinet qui n'écoutait pas ce qu'elle voulait faire par rapport au budget parlementaire. On ne sait pas le lien avec les Brownies.
Tu as sûrement raison. Mais je te
mais
redis ce que je t'ai dit.
Oui, oui, on
c'est
est d'accord.
L'image.
On est d'accord là-dessus.
L'image et la politique, Antonine, tu le sais plus que moi. C'est une question d'image. Et ça va me faire faire un lien parce qu'on fait un petit 4-5 minutes d'overtime du caucus. Ça me fait lien sur l'image. Ah tiens, la candidate dans Chicoutimi du Parti québécois, Mme Marie-Caroline Laflamme, qu'est-ce qu'elle a fait là, elle? Elle a pris une photo avec une calotte MAGA devant Donald Trump en 20 pouces.
Hey,
c'est quoi?
Femme.
Le mouvement MAGA s'empare du PQ.
Et de Chicoutimi.
Ils peuvent bien vouloir se séparer. PQ, ils veulent devenir 51e état.
Et voilà, t'as tout compris.
Elle vient de nous le dire, elle.
Alors, je vais faire un plaidoyer pour le second degré. C'est le fun, des fois, d'avoir un second degré. C'est comme si, des
c'est
fois,
quoi,
c'est
ça?
Avis de recherche... Des blagues, de l'humour, du sarcasme, de l'ironie.
Ben voyons donc, elle a un super beau sourire avec sa calotte de mème.
OK, là, je vais vous décrire l'image parce qu'on n'a pas de clip à vous présenter, étant donné que c'est une photographie. C'est... Mais elle a effectivement sa calotte MAGA. Elle est devant une espèce de vitrine dans laquelle il y a plein de Donald Trump.
Des pouces en l'air. Regardez-moi sur Twitch.
Elle fait deux pouces en l'air, là. Mais, tu sais, moi, quand je fais deux pouces en l'air avec un sourire de mème, ça veut dire... T'sais, c'est sarcastique, là. J'aime pas ça pour vrai.
Pour vrai?
En tout cas, moi, c'est de même.
Okay.
Alors, il y a une petite tempête sur les médias sociaux dans les derniers jours, parce qu'il y a des gens qui ont pris ça au premier degré. Et il y a aussi des gens qui disaient pourquoi les gens se fâchent quand quelqu'un appuie Trump. Vraiment, c'est-tu si tabou que ça, elle a le droit d'aimer Trump. Genre, c'était ça un peu les deux, les deux opinions qui circulaient en fin de semaine. Mais elle a fini par s'expliquer sur les médias sociaux. Elle a dit c'était une blague, c'est du second degré, la gang. Alors, j'en profite maintenant sur ces ondes.
Ouais.
Pour sortir tous mes squelettes du placard.
Okay? Ah, vas-y, vite,
ben,
vite.
Je dis tout, il y en a peut-être que je vais oublier, mais en tout cas,
okay.
Ceux dans la mouvance MAGA. Donc, il existe probablement une photo de moi. Quand je travaillais chez Coveo à l'époque, il y avait une casquette MAGA qui traînait dans le bureau. Mm-hmm. Mais ce n'était pas écrit « Make America Great Again », c'était « Make une affaire d'informatique Great Again
ouais, ».
Je
ne
me rappelle même pas c'était quoi. Donc, il y a
t'as
ça qui
mis
existe.
Mis cette casquette-là.
Oui, donc j'ai une photo
okay,
de
ça. OK, explique-moi pourquoi tu aimes Donald Trump. Ah, j'ai pas compris cette deuxième degré.
Okay. Okay. J'ai aussi une photo de moi. D'ailleurs, je pourrais la publier sur X tantôt.
Faudrait.
De moi avec un carton grandeur nature de Donald Trump qui date de 2016. Parce que j'avais prédit l'élection de Donald Trump.
Et t'as réussi.
Oui, c'est moi qui ai gagné.
Fait que là, t'étais contente.
Non, c'est ça. C'est pas nécessairement ça.
Ton roi est élu.
Exact.
Ton roi.
Exact. Il y a aussi plusieurs photos de moi avec des items canadiens. OK? Mettons, à un moment donné, j'étais au Dollarama. Puis là, il y avait une super belle casquette du Canada avec des diamants.
Ouais.
J'ai une photo de ça. Ça veut pas dire que je suis fédéraliste.
T'as mis une casquette du Canada sur
oui.
ta tête? Les cheveux t'ont pas brûlé?
Non. C'était correct. Mais peut-être ça a gâché ma carrière future, je sais pas.
Peut-être.
Ensuite,
peut-être.
J'ai aussi une photo de moi d'un bureau d'Infoman avec une casquette du Canada sur la tête. Donc, il y en a plusieurs qui circulent en ce moment. Donc, maintenant, vous êtes au courant.
Je viens de comprendre pourquoi Antoine de la misère à avoir des informations pour nous autres sur le PQ. On apporte des calottes du Canada.
C'est ça, je suis barré, je suis à liste noire.
T'es barré, ben raide. T'as tout fait ça, puis c'était tout au second degré.
Ouais.
T'étais pas sérieux.
Ça veut dire.
Non.
Que... OK, ça veut dire que si. Je vois une photo de toi circuler avec une calotte du Canada. C'est juste pour faire une blague.
C'est une blague.
L'humour existe encore?
Ben oui, mais en politique, il faut faire attention.
Ouais, mais c'est, honnêtement, c'est la question que j'avais pour toi en terminant. Tu as déjà été staffer politique. Aurais-tu, puis là...
Je ne conseille jamais
c'est ça. Aurait
à
pas
mes
fallu
élus
qu'elle fasse.
Ou à mes clients de nos jours, en ce moment, de faire des blagues, malheureusement, parce qu'il y a du monde qui ne vont pas l'en comprendre.
Ouais, c'est ça.
Tu vas
être
cité hors contexte. Puis là, ben il y a des gens qui vont être choqués. Puis il faut dire aussi, de nos jours, l'humour, ça finit toujours par choquer quelqu'un.
Oui. Ben surtout, je pense, des blagues aussi avec des situations qui sont plus grandes que nature, comme celle de Donald Trump, président
on
des
s'entend.
États-Unis. On s'entend.
Oui, mais je veux juste te dire que tu sais, il y a un humoriste l'autre fois qui racontait qu'il a fait une blague d'allergie. Je pense que c'est Gervais qui disait « J'ai fait une blague d'allergie », puis il y a une mère qui m'a écrit et m'a dit « Tu trouves ça drôle, mon enfant risque sa vie à tous les jours à l'école ». tu sais, de nos jokes,
ouais,
tu finis toujours par choquer quelqu'un. Non. Donc, c'est comme ça.
Je suis d'accord avec toi, Antonine. Antonine Iaccarini, merci pour cet excellent caucus. Demain, tu es de retour pour le caucus. Et également, on va voir le commissaire au lobbyiste en entrevue à 12h30. Oui. Explique-nous donc pourquoi.
Parce que ça brasse du côté de la gestion du lobbying. Le commissaire au lobbyisme demande qu'on renforce la loi. On considère qu'il y a pas mal de trous d'angle mort. Et d'ailleurs, ce matin, Radio-Canada là, nous apprenait que l'enquête qui avait lieu sur McKinsey pendant la gestion de la pandémie a finalement atterri dans un cul-de-sac, notamment par manque de moyens d'aller plus loin. Fait qu'on va pouvoir parler de ça. Et aussi, dans le rapport Galant, il y avait pendant la commission un témoignage du commissaire au lobbyisme parce que les firmes qui font, en fait, qui veulent participer aux appels d'offres font des activités d'influence auprès du gouvernement. Mm-hmm. Et c'est pas toujours super bien encadré. Et je sais pas si vous saviez, mais aussi les OBNL ne sont pas couvertes par la loi sur le lobbyisme. Alors que moi, je pense que ça pourrait contribuer, premièrement, pourquoi pas être transparent? Ben ça pourrait contribuer aussi à dédiaboliser le lobbyisme. Si on voyait que c'est pas juste des pétrolières, des compagnies informatiques qui font du lobbying dans la vie, mais que tout le monde, en fait, fait de l'influence. C'est pas juste les méchants, là. Il y a les gentils aussi.
Ah oui, il y a les gentils. Ça va être une super entrevue. Merci, Antoine, de nous avoir concocté le tout et merci d'y participer demain. Je laisse à Fred le mot de la fin. Bref, faut voir la casquette MAGA et celle du Canada comme un chapeau de clown. Vous êtes à On Agence sur Boulevard 101. Après la pause, on se tourne vers notre politique municipale. Mathias Turcotte est allé sur le terrain à la conférence de presse de Respect citoyen sur l'abattage d'arbres sur le boulevard René Lévesque. En raison des travaux préparatoires du tramway. Vous en avez parlé vendredi, plus de 1000 arbres abattus. Et également, on va parler avec Marie-Josée Asselin, responsable de la gestion des déchets et du recyclage à la Ville de Québec au comité exécutif. La Ville de Québec va payer 400 000 $ dans les 3 prochaines années pour fouiller dans vos vidanges. Ça n'a pas de sens. On parle de ça après la pause. Exactement, 12h44 sur Boulevard 101. Vous écoutez l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte pour cette semaine. Pascal est encore en vacances. Elle sera de retour la semaine prochaine à mes côtés. 0 degré présentement, généralement ensoleillé. Je sais pas ce que vous allez faire après-midi, mais moi, j'ai commencé à travailler à 4h à matin. Puis à 2h15, 2h20, je fais un petit jogging dehors. Il fait tellement beau.
Ah ouais?
Eh, mais, hein? 1 degré faible neige intermittente pour demain. Moins 1 degré ensoleillé pour mercredi. À plus long terme, c'est 1 degré, moins 3 pour jeudi et vendredi. Mathias, on en parlait tout à l'heure. La Ville de Québec va inspecter nos bacs de déchets et de recyclage. Explique-nous ça.
Oui, en gros, l'objectif du côté de la ville, c'est faire une opération pour déterminer quelles matières résiduelles prennent la direction de l'incinérateur, pour voir en fait combien de déchets qu'on a là-dedans, combien de cartons ou de matières qui auraient pu être recyclées, mais qui sont directement envoyées à l'incinérateur également. C'est un contrat de 400 000 $ qu'on a fourni à un fournisseur externe. On parle au total d'un contrat de 3 ans, 3 campagnes par année. Donc, printemps, été, automne. 8 camions de collecte par campagne. Donc, on parle de 24 camions par année sur 3 ans qui vont justement faire l'analyse de ces déchets-là. Ça va être aléatoire là, à travers la ville de Québec. Mais on va cibler les secteurs de façon à avoir une idée globale pour la ville. Donc, c'est 400 000 $ au total que ça va coûter.
Et pour en parler avec nous, on a justement la conseillère municipale du district de Loretteville-Les-Châtel et surtout responsable de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec, Mme Marie-Josée Asselin. Mme Asselin, merci beaucoup pour votre présence à l'émission L'en jase.
Ça me fait très plaisir d'être là.
Mme Asselin, je vous lis un texto qu'on a reçu d'un auditeur qui dit « Ça va coûter 400 000, mais il va aller chercher de l'argent de plus. Ils vont dire que le tri est mal fait et va encore monter les taxes. » En parlant évidemment du maire Marchand, il va aller récupérer le coût encore sur le dos des citoyens. Vrai ou faux que vos analyses vont donner le droit à une nouvelle taxe aux citoyens?
C'est faux!
C'est faux! Mais pourquoi le faire d'abord?
Ben, en fait, on a besoin de savoir un peu comment les gens... qu'est-ce qu'on retrouve dans les poubelles, mais surtout, qu'est-ce qu'on retrouve dans les poubelles qui ne devraient pas être là puis qu'on échappe. Parce que les gens, ils font pas les gestes de mauvaise foi en général. Tu sais, par exemple, on va faire 3 caractérisations, c'est-à-dire, vous l'avez dit, 8 camions 3 fois par année. Donc, dans un camion, par exemple, à chargement avant, qui fait du multilogement puis du commercial, ben dans un camion, c'est de 70 à 80 adresses.
Okay.
Les chargements latéraux, le camion qui passe dans les quartiers résidentiels, dans un camion, on va retrouver l'équivalent de 400 à 500 portes.
Parfait.
Il n'y a pas moyen à partir de ça de dire « Monsieur Tremblay, sur telle rue, a jeté sa bonbonne de propane dans la poubelle, puis on va aller lui taper sur les doigts. » C'est vraiment pour savoir. Je vous donne l'exemple au printemps, par exemple, quand les gens nettoient leur terrain, il y a beaucoup de monde qui vont mettre ce qu'ils ramassent à la pelle, en vrac, directement dans leur poubelle. Quand on fait ça, ben on vide ça directement dans le camion, puis quand le camion va se déverser sur le convoyeur où on trie les poubelles qui arrivent par camion, ben là, faut tout arrêter. Faut que deux gars sortent avec une pelle pour aller enlever cette terre-là ou cette la garnotte qu'il y avait sur le terrain parce que ce qu'on reçoit, ce qu'on devrait recevoir, ce sont des sacs. Fait que l'objectif, c'est vraiment de dire, est-ce qu'on a des campagnes de sensibilisation ou de communication ciblées à faire par saison? Est-ce que dans les sacs mauves, on retrouve des résidus alimentaires, des choses qui se mangent ou qui font partie de quelque chose qui se mange, ou il y a beaucoup de monde qui met de la litière de chat, par exemple. Fait que ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller voir c'est quoi les comportements, à la fois dans le résidentiel puis dans l'institutionnel, le commercial, pour être capable de voir, OK, en 2026, en 2027, en 2028, c'est ça le portrait de la situation. Sur quoi on peut travailler.
Donc, l'objectif, c'est vraiment pour planifier des campagnes de sensibilisation. Vas-tu voir, est-ce que la population va voir des résultats concrets? Parce qu'on parle quand même d'un investissement de 400 000 $ durant une période où le maire semble chercher à économiser dans chaque petit millier de dollars qu'il peut, par exemple, avec les patinoires.
Bien, en fait, quand on jette, là, je vais vous donner l'exemple du carton. À l'incinérateur de Québec, quand on brûle, les déchets qu'on reçoit, ça nous coûte comme ville 196 $ la tonne. Il y a des frais de redevance qu'on doit donner au gouvernement en fonction du poids de ce qu'on incinère. Si collectivement, actuellement, on incinère à peu près 40 000 tonnes de carton par année à 196 $ la tonne, ça, c'est 8 millions. Fait que l'image, là, c'est imaginer la porte du four qui ouvre. On prend 8 millions de $ et on le met directement dans le feu.
Donc, vous croyez qu'avec les campagnes de sensibilisation, le 400 000 que vous économisez, que vous déployez pour justement bien s'informer de ce qu'il y a dans les bacs, vous allez être en mesure de faire des économies?
Ben, c'est ce qu'on espère. On espère être en mesure. Tu sais, les citoyens, je comprends le citoyen quand il dit on ne veut pas avoir de surtaxe, on ne veut pas payer plus. Mais actuellement, collectivement, on paye plus pour les mauvais comportements ou les comportements méconnus des citoyens que ce que ça va nous coûter de caractérisation. Puis, on a des cibles qui nous sont aussi imposées de diminution de matière résiduelle. Je vous l'ai dit, on paye tantôt là, 196 $ la tonne. Il faut diminuer ce tonnage-là. Le recyclage à Québec, ça nous coûte rien parce que c'est Éco-entreprise Québec qui en fait la gestion. Il n'y a plus de raison de retrouver ces matières-là. Donc, il faut savoir, est-ce que les gens mettent des batteries d'auto dans le recyclage, une bonbonne de propane? Sur quoi on a besoin d'aller faire de la sensibilisation selon les quartiers? Il y a peut-être des comportements qui sont différents en banlieue du centre-ville. Fait que cette caractérisation-là est super importante parce qu'on ne peut pas avoir des cibles si on ne sait pas de où on part.
Non, je comprends. Comprenez-vous, par contre, les gens d'être inquiets parce que sous l'administration Marchand, ils ont vu la taxe alimentaire à l'immatriculation arrivée, la taxe des chats, là, les jumelles thermiques pour les foyers. Donc, les gens sont très inquiets que la ville commence à fouiller dans leurs poubelles.
Il y a un amalgame de toutes sortes de choses dans ce que vous venez de mentionner par rapport aux caméras thermiques, par rapport à d'autres choses. T'sais, l'objectif, c'est de diminuer collectivement nos coûts en gestion des matières résiduelles. Je le répète, là, c'est juste pour le carton, c'est 8 millions par année. Quand on met de la litière de chat dans un sac mauve, on a l'impression que ce comportement-là, c'est pas grave, puis qu'au final, mais une fois que la poubelle est partie devant chez vous, là, il y a toute une chaîne de traitement, il y a toute une chaîne de tri qui fait que collectivement, cet argent-là, on ne la met pas ailleurs.
Oui, mais je comprends entièrement. Là, présentement, ça, c'est dans le but de faire de la sensibilisation. Le maire Bruno Marchand a parlé de la taxe aux matières résiduelles puis de l'eau pour les entreprises si jamais les comportements ne changent pas. Il a sous-entendu qu'en 2027, on pourrait voir une augmentation de cette taxe-là. Est-ce qu'on pourrait voir également des opérations ciblées un peu comme ça, de plus ciblées sur les entreprises pour justement augmenter la taxe aux entreprises qui respectent moins les règles de tri, par exemple, dans le futur?
Bien, ça a été dit, puis je le répète, je le confirme. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour une entreprise de mettre son carton à la poubelle. On a des équipes à la ville, on est une des villes au Québec qui a le plus d'accompagnement. Le matériel est fourni gratuitement, la formation est fournie gratuitement, l'accompagnement est fourni gratuitement. Une entreprise appelle le 3-1 aujourd'hui et dit « Écoutez, là, moi, je voudrais recycler plus, mais je manque d'espace. Je voudrais recycler plus, j'ai pas assez de bacs. Vous venez pas assez souvent. Qu'importe. On a une équipe qui va les rencontrer.
Vous allez les aider.
Là pour les aider à trouver la meilleure solution au moindre coût. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu une taxe volontaire. T'sais, si on met à ta disposition tous les moyens de faire le bon geste, de faire du recyclage, puis que tu le fais pas, éventuellement, il y a une espèce de principe d'utilisateur-payeur là-dedans, parce que c'est le citoyen, lui, qui fait sa job chez eux, qui met son recyclage à la bonne place, qui paye ultimement pour l'entreprise qui le fait pas. Donc, on le fait aussi quand on dit on va charger l'utilisateur, le principe de l'utilisateur-payeur. Ben, en 2027, si un commerçant ne recycle pas, ça fait 20 ans qu'il fait du recyclage à Québec, à un moment donné, peut-être qu'on est rendu au moment où il va falloir serrer la vis un peu pour que le citoyen qui, lui, fait tout ce qu'il peut pour avoir le bon comportement, ben, que sa facture aussi ne grimpe pas parce que des entreprises aujourd'hui le font pas. Puis avec toutes les livraisons à domicile, la quantité de carton, à la fois dans les entreprises, chez les gens, a augmenté considérablement. C'est pas plus dur de le mettre dans le bac bleu.
Oui, donc je comprends qu'on a vraiment ciblé les entreprises et non les résidents. Donc, en terminant, Mme Asselin, si dans 3 ans, je vous pose la question, après votre analyse, est-ce que vous allez augmenter les taxes des citoyens par rapport à la gestion de leurs déchets et de leur recyclage, qu'est-ce que vous allez répondre?
Non.
Parfait, je garde cet extrait-là en note.
Gardez ça en note, puis écoutez, je rappelle à tout le monde là, que collectivement, on est responsable des matières qu'on produit. Puis si tout le monde fait le bon geste, puis tout le monde met la bonne chose à la bonne place, bien, on va tout le monde, collectivement, on va diminuer notre facture.
Excellent. Merci beaucoup, Marie-Josée Asselin, pour votre présence à l'émission On en jase aujourd'hui.
Bonne journée, bye-bye.
Merci, au revoir. C'était Marie-Josée Asselin, conseillère municipale du district Loretteville-les-Châtels et responsable des gestions des matières résiduelles. Mathias, on va garder ces deux extraits-là en note.
Oui.
Où elle a crié « faux » et où elle a crié « non ». Pour dire qu'on ne taxera pas davantage les citoyens, parce que moi, je vois un modus operandi s'établir avec l'administration Marchand. Là, on passe toutes les mauvaises nouvelles la première année, ce qu'on avait fait la première fois. Puis un an avant l'élection, on avait mis la taxe à l'immatriculation. Là, on fait une enquête sur 3 ans. Donc, c'est-tu qu'on va un an avant l'élection, on va dire « Hey, vous allez être taxé sur vos poubelles. »
Mais on espère
que non. Mais les
gens
vont l'avoir oublié.
On espère que non, puis parce que je veux dire, t'es nommé tantôt, il y a certaines taxes qui se sont rajoutés, qui commencent à se multiplier. Puis pour des affaires comme ça, là, si on commence avec les amendes pour les feux de foyer, avec les amendes pour les déchets, c'est des coûts supplémentaires qui se rajoutent pour les citoyens. Par contre, bon, là, on va croire la parole de Mme Asselin comme quoi ça va pas se faire.
On n'a pas le choix, faut croire les gens.
Mais je tiens à dire, puis même si, par exemple, on dit « Hey, on veut pas de pénalité, on veut pas d'amende pour les déchets, de taxe sur les déchets », faut dire, par contre, présentement, du côté de la Ville de Québec, on a un problème. Faut faire mieux le tri, puis ça, c'est un effort collectif de tout le monde.
Ça, c'est clair, c'est un effort collectif de tout le monde. Et on a ciblé les entreprises pour avoir une taxe additionnelle parce qu'eux ont un contrôle en plus grand nombre. C'est ce que je comprends. Croyez-vous, vous, vous serez jamais taxé sur vos poubelles puis votre recyclage. 418-971-1021. Vous y croyez, c'est oui. Vous y croyez pas, c'est non. On fait un pool à l'instant même. Vous êtes énormément à réagir sur les au 418-971-1021.
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Boulevard 101, l'émission en jase, midi 57 minutes. Vous le savez, on est sur le beat de la politique fédérale, provinciale, mais surtout sur celle municipale. Pourquoi? Parce que c'est important de vous informer et d'analyser les grands dossiers municipaux. On vient de passer au travers la taxe aux déchets et au recyclage chez camions qui vont être justement observés pour savoir comment le tri se fait. Alors, vous êtes énormément à réagir avec des gens qui disent « Hey, moi, je le crois pas, il va en avoir une en majorité jusqu'à présent. »
Je veux juste pointer de quoi sur le fait que les auditeurs ont dit « Croyez-vous que vous allez jamais être taxé sur ça? » Puis tout le monde dit non. Puis ça revient sur Twitch aussi.
C'est ça.
Ça montre à quel point l'administration actuelle a perdu la confiance de la population.
C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que on a été habitué par cette administration-là dans le premier mandat. Comme je le disais tout à l'heure, les mauvaises nouvelles étant partant. Puis après ça, on a taxé graduellement les chats. On a mis une politique sur les feux de foyer. Là, après ça, on a taxé à l'immatriculation. Alors, ça fait juste continuer dans la mouvance. C'est pour ça que les gens croient pas, se disent « ça va arriver », même si elle a scandé là. Non! C'est faux! Les gens le croient pas et c'est normal. Il y a un modus operandi qui a été établi.
Puis même sur les autobus, on a moins de financement du côté provincial. C'est revenu chez certains. Puis même moi, je me suis questionné. Est-ce qu'on va trouver le moyen de rajouter une taxe aux citoyens pour contrer le fait qu'on a moins de financement?
Fameuse taxe à essence qui avait été demandée au niveau de la MRC où le maire Marchand nous a toujours dit non, on n'a pas fait la demande. On a demandé au gouvernement est-ce qu'on pourrait étudier la possibilité de... c'est le faire.
Oui, c'est ça. C'est dispensé. fortement, c'est... du moins. Christian qui dit bientôt taxe aux taxes.
Ouais, c'est ça exactement. Un autre auditeur qui écrit « Ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. » Donc, un peu décevant, mais soyez sûr qu'ici à Boulevard, on va être sur le gun de cette information-là. On ne veut vraiment pas que la Ville nous en passe une petite vite. Puis c'est pour ça qu'on va enregistrer les deux réactions de Marie-Josée Asselin. Mathias, on en parlait vendredi. Plus de 1000 arbres sur René Lévesque qui vont être coupés en raison du projet de tramway. Bon, ça passe mal dans la gorge. Moi, je le dis, je suis conséquent dans la vie. Je veux pas d'un troisième lien qui passe par l'île d'Orléans parce que je veux pas qu'on détruise la nature. Fait que le tramway qui détruit 1500 arbres, ça me fait mal en titi. Ceci dit, coudon, le projet va se faire. Il va se faire. Mais là, de le faire de façon prématurée, comme la Ville veut le faire dans les travaux préparatoires, on se pose la question parce qu'on se dit, écoute, il est rendu à combien ce tramway-là? Est-tu rendu à 13 milliards, à 15 milliards? Va-tu vraiment se faire? On va-tu avoir du financement du fédéral? Il y a plein d'impondérables à l'heure actuelle.
Puis du côté de l'opposition officielle, Stéphane Lachance, justement, qui a pris la parole au sujet, puis lui, ce qu'il dit un peu, c'est justement ça. Faudrait pas commencer à couper des arbres avant qu'on aille un montage financier complet pour le projet.
Alors, on se retrouverait comment? Avec des arbres coupés pour un projet qui est mis sur la glace ou qui est retardé ou qui est modifié? Nous, on dit tout simplement, on a besoin d'une confirmation officielle de la part de tous les participants avant de commencer à faire la bataille.
Je suis entièrement d'accord parce que, imagine le pays. Imagine qu'on coupe 1500 arbres et que le tramway n'a pas lieu. Ça serait terrible parce qu'il va être rendu à 13 ou 15 milliards. Tu sais, ça se peut que le gouvernement du Québec débarque. Ça va être en 2027 quand CDPQ Infra va arriver avec le coût exact parce qu'ils ont le droit dans le contrat de sortir justement du projet de tramway. Ça se peut que le fédéral dise hey, « moi, c'est juste 1,45 milliard. » Fait que là, ça va être qui va financer ça, la Caisse de dépôt? On va faire comme le REM. Ça va être la Société de transport, le RTC, qui va payer des contrats d'exploitation puis qui va s'endetter encore plus.
Puis, Stéphane Lachance qui a fait une comparaison aujourd'hui, justement, par rapport à ça, le garage Newton, qui est la bâtisse avant sur le terrain où est censé être construit le garage Newton. On l'a démoli du côté de la ville. Maintenant, on n'a plus aucune bâtisse sur ça. Puis là, on se retrouve que le gouvernement provincial s'est retiré en financement. Puis lui, son parallèle, c'était... Ben, la Ville a fait cette erreur-là à quelques reprises par le passé. Faut pas que ça se reproduise. Effectivement, en même temps, du côté de tous les paliers de gouvernement, on semble nous dire que le montage y est fait, le montage y est sûr, le montage financier y est là, mais reste à... On a besoin des preuves de ça, c'est sûr. J'aimerais passer sur un... Mais en fait, c'est sur le même sujet.
Ouais,
là,
Stéphane Lachance,
il s'est fait challenger un peu. C'est fâché, oui.
Pas encore mon chum Oli Lemieux de Radio-Canada, là. Oui, il fait tout fâché, lui.
Justement, Olivier Lemieux a comme un peu pointé l'hypocrisie chez Stéphane Lachance, j'ai envie de le dire comme ça. Parce que souvenez-vous, Stéphane Lachance a été candidat pour le Parti conservateur du Québec en 2022. Puis en 2022, puis encore une fois aujourd'hui, le Parti conservateur propose un troisième lien à l'Est qui passe par l'île d'Orléans.
Oui.
Donc automatiquement...
Qui scrappe les terres agricoles. Puis
exactement.
C'est pour ça que moi, je suis conséquent dans la vie. Si je suis pas pour qu'on scrappe les terres agricoles, je suis pas pour qu'on coupe 1500 arbres.
Donc Stéphane Lachance s'est fait questionner sur le fait que pour un troisième lien, il était pour pour qu'on scrape des terres agricoles et qu'on coupe des arbres? Voici sa réponse.
Des arbres comme ça, là, il n'y en a pas nécessairement partout. Là. C'est exceptionnel, des arbres comme ceux-là. Là.
T'es fâché?
Il y a des terres agricoles. Monsieur Lemieux, j'ai resté 27 ans à l'île d'Orléans. Il y a des terres agricoles présentement à l'île d'Orléans qui n'ont plus moyen de faire de la production en fonction de la grosseur de la machinerie. C'est pas juste des champs, c'est une question de troisième. Écoutez, on connaît votre position, vous, je la respecte, vous connaissez la mienne, voilà, elle est dite.
Ça chauffe, Anti-Stéphane, la chance et les médias, j'aime ça. J'aime ça, le chat sort du sac, comme on dirait. Stéphane Lachance a toujours été quelqu'un qui avait un tempérament quand même assez impulsif. Et là, on est capable de venir peser sur les boutons. C'est le fun, j'aime ça.
Mais je veux dire, d'un certain sens, puis je pense qu'Olivier Lemieux l'a bien ciblé, faut être conséquent dans la vie. Moi, je te l'ai dit, Jeff, moi, des arbres qui vont être coupés pour le tramway, je vais pas verser une larme parce que si on coupe des arbres pour le troisième lien, je verserai pas plus de larmes.
C'est ça. Exactement.
Je suis conséquent.
Moi, je suis du spectre inverse de toi, mais on est conséquents les deux dans notre prise de position, ce que Stéphane Lachance n'est pas visiblement.
Dernier sujet qu'on a traité également, c'est sur la taxe à venir sur les matières résiduelles et l'eau pour le commerçant. Bruno Marchand l'a annoncé en décembre dernier, ça, qu'il allait probablement avoir une hausse pour les commerçants si ça ne s'améliore pas, puis si les commerçants ne commencent pas à mieux trier leurs différents déchets. La semaine dernière, l'opposition nous avait envoyé un communiqué comme quoi, là, on a annoncé une hausse de taxes.
On l'a appris lors du discours de Bruno Marchand à la Chambre de commerce, qui est totalement faux, c'était dans le budget, puis c'était un plénier.
Puis après ça, l'opposition a lancé un chiffre comme quoi c'était ça, l'augmentation de taxes, mais on parlait d'investissement. L'opposition semblait complètement mêlée dans ce dossier-là, faut que je le dise. Puis là, du côté de la ville, on a répondu en disant, ben là, on l'a dit en décembre dernier. Oui. Puis les médias, on leur a rappelé aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on a traité du sujet, on leur a rappelé. Ça s'est dit en décembre dernier. Puis on critiquait un peu la façon que le maire a fait de dire, on va augmenter les taxes, mais on ne sait pas encore comment qu'on va les augmenter, quand on va les augmenter. Le maire Marchand a un peu averti les commerçants. Il y a eu un échange, justement, par rapport à la façon de procéder entre Mélanie Sauvé et Taïeb du Journal de Québec aujourd'hui.
Ah, maudit Taïeb.
C'est comme j'expliquais plus tôt, c'est le principe qu'on a eu la nouvelle, puis au lendemain et les jours qui ont suivi, moi, je reçois des appels, je reçois des courriels de commerçants qui disent « Ouais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi? Comment est-ce qu'on va y arriver? » Ils ont plein de questions, mais j'ai aucune réponse à leur donner.
Mais la nouvelle, elle a été donnée en décembre, me semble pas, en février.
Mais
là,
la nouvelle, mais les façons. Ouais. Mais la façon de calculer et comment est-ce que les commerçants vont être accompagnés, on est encore dans le néant.
Justement, c'est là-dessus, le maire, la question lui a été posée. Il a dit justement, ça nous permet là de discuter, de voir les assises et de voir la possibilité avec les commerçants qu'il n'y ait pas de hausse si c'est eux ça. Améliorent les choses. Donc, n'est-ce pas logique de procéder comme ça? Non.
Mathias, on est dans le trouble. Sais-tu pourquoi? On a une opposition qui n'est pas du tout organisée. Tu sens, on en a parlé, on l'a critiqué jeudi dernier. Puis on a un maire présentement qui se croit tout permis. Il est prêt à couper des arbres pendant les travaux préparatoires. Il est prêt à fouiller dans vos vidanges. Il est prêt à utiliser des jumelles thermiques pour regarder qu'est-ce qui se passe dans vos foyers. On est dans le trouble.
On n'est pas capable d'aller critiquer sur les bonnes choses pour
Exactement.
Les bonnes raisons.
Fait qu'on est dans le trouble. Bruno Marchand a la voix claire, puis l'opposition n'est pas capable de s'organiser. Je vais leur donner une chance, ils commencent.
Oui.
Mais il faut un apprentissage à vitesse grand V, là, parce que c'est parti, là.
Parce que je pense que cet extrait-là dit tout.
Ah, vraiment?
On blâme Bruno Marchand s'il n'y a pas de transparence, si on ne dit pas d'avance qu'il a prévu faire une augmentation ou autre. Puis là, il fait d'avance, il dit « Hey, si vous ne changez pas vos habitudes, les taxes vont augmenter. » Puis là, on critique Bruno Marchand d'avertir d'avance les commerçants de changer leurs habitudes, sinon il va avoir plus de taxes. C'est un peu contradictoire.
Là. Exactement. Donc, on est vraiment dans le trouble, guys. Désolé d'être un petit peu négatif dans mon good vibes only, normalement. Dans un instant, à Boulevard 101, on va parler avec Christine Saint-Pierre, ex-ministre des Communications, de la Culture et de la Condition féminine au niveau du Parti libéral du Québec. On va la faire commenter sur le couronnement de Charles Milliard et également sur le rapport de la commission Galant. Ça suit dans un instant. On en jase sur Boulevard 101. OK, oui, on en jase à Boulevard 101 le midi. 13h13, votre émission du midi. Si vous êtes des nouveaux auditeurs ou nouvelles auditrices, ben vous constatez qu'à On en jase, c'est fort simple. On vous informe sur les gros sujets d'actualité, on les analyse avec vous. Comme on vient de faire dans le caucus avec Antonine Iaccarini, du lundi au jeudi de midi à 12h30. On a analysé la commission Galant. On vient d'avoir Marie-Josée Asselin, responsable de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec, où elle nous a dit « C'est faux, on vous taxera jamais plus pour ça. »
Pas les citoyens.
Exactement, les entreprises, oui, mais pas les citoyens. À voir, on garde cette citation-là, c'est clair. Et on va passer dans quelques instants avec une entrevue avec Christine Saint-Pierre, ex-ministre du Parti libéral, ministre Communication, Culture et Conditions féminines. Madame Saint-Pierre, ça va être intéressant, Mathias, je veux la questionner sur comment ça se passe à l'interne quand un rapport comme ça est déposé, parce qu'elle faisait partie du Parti libéral lorsque le rapport de la commission Charbonneau a été déposé. Fait que je vais avoir les coulisses du décor.
Et avoir toute la gestion de crise qui se passe derrière. Là. Mais là, la gestion de crise était dans le passé, mais il faut quand même voir comment qu'on va répondre. Puis tout. T'en parles justement, le rapport de la commission Galant qui a été déposé aujourd'hui. Ce qu'on retrouve surtout dans ce rapport-là, c'est que la SAAC a menti pendant plusieurs années au cours de la transformation numérique de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est un rapport d'environ 600 pages dans lequel on trouve que justement la Société d'État a envoyé des suivis annuels hypocritement rassurants aux élus. Là, on parle de chiffres tronqués ou d'informations qu'on cherchait justement à cacher. Oui, la SAAC a eu certains blâmes, mais certains élus ont eu un blâme, notamment Éric Kerr, qu'on a dit que l'ancien ministre de la cybersécurité au Québec a contribué à l'indisponibilité de l'information. Ce qu'on dit dans le rapport, c'est plus qu'il se désintéressait du projet puis qu'il ne voulait pas trop en entendre parler, mais un gros rapport en espérant que ça change de quoi au Québec pour les projets de transformation numérique. On en a grandement besoin. La santé publique de la capitale nationale a mis fin à son enquête sur la sclérose latérale amyotrophique entre 2000 et 2022 dans Charlevoix-Est. Cette enquête-là qui s'est ouverte après un reportage du bureau d'enquête de Québecor qui dénombrait beaucoup de cas de cette sclérose latérale-là dans justement la région de Charlevoix-Est. On parlait de 24 personnes atteintes par cette terrible maladie. C'était beaucoup plus que la moyenne supposée. Finalement, l'enquête a été abandonnée parce qu'il n'y avait pas assez de cas pour que la santé publique le poursuit. On n'a pas réussi à identifier une relation cause à effet entre un facteur environnemental et justement cette maladie-là, de ce que dit l'Institut national de la santé publique du Québec. Toutefois, dans le reportage de Québecor, il y a de ça quelques années, il avait soulevé que 4 employés de la papetière Domtar étaient morts de la maladie dans les 20 dernières années. Mais c'est un dossier qui n'aura pas toutes les réponses qu'on attendait. Et je termine avec Charmillard, qui est officiellement le nouveau chef du Parti libéral du Québec, après que finalement, il n'y ait pas eu de course à la chefferie pour le Parti libéral. C'est Charmillard qui l'emporte.
Et on va immédiatement aller parler de ce courant et du rapport de la commission Galant avec Christine Saint-Pierre, ex-ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour le Parti libéral du Québec. Madame Saint-Pierre, merci de participer à l'émission L'Enjase.
Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Madame Saint-Pierre, avez-vous confiance en votre nouveau chef, Charles Milliard?
Bien, en fait, il faut avoir confiance en ce nouveau chef parce que le Parti libéral du Québec a vécu des moments assez troublants, assez difficiles dans les derniers mois. Alors, je pense que les militants hier ont démontré qu'il y a quand même encore du souffle parce qu'il faut quand même réaliser que réunir 600 personnes dans un centre des congrès, un dimanche après-midi, il faut vraiment avoir le goût d'y aller, puis il faut être motivé pour y aller. Et ça, je pense que ça a envoyé un très, très bon signal. Moi, je ne milite plus au Parti libéral. Je fais plus gérante d'estrade. Maintenant, j'analyse ce qu'il se passe.
On aime beaucoup que vous soyez gérante d'estrade. On vous parle quand même assez régulièrement. C'est parfait pour nous, ça.
Alors, la gérante d'estrade, hier, ne pouvait pas être là, mais j'ai suivi ça sur les médias sociaux, j'ai suivi ça à la télé, j'ai écouté le discours, évidemment, et le point de presse après. Et je pense que c'est assez unanime qu'il s'en est assez bien sorti. On ne peut pas parler d'un grand tribun. Ça va peut-être venir, parce que c'est quand même un exercice difficile là, de se présenter devant une foule de 600 personnes, puis essayer d'aller chercher des applaudissements là rapidement,
Et je pense que ce bout-là, il a su le faire. Il y avait des bonnes phrases, des bonnes lignes, comme on dit, là, des bonnes, comme on dit en bon français, des punchlines là,
ouais.
qui frappaient. Alors, mais évidemment, personne là, regarde ça comme étant évidemment la victoire là, en octobre prochain. Et là, il faut beaucoup de travail à abattre d'ici là.
Je vous nomme conseillère de Charles Milliard pour 24 heures, puis je vous dis qu'est-ce qu'on fait avec le dossier Marois-Risky. Vous lui conseillez quoi?
On parle au caucus. Et on parle aussi au personnel politique. C'est d'ailleurs dans les entrevues qu'il a données récemment. Au début, il parlait que du caucus. Il disait qu'il parlerait au caucus. Il y aurait des discussions avec le caucus. Puis il a ajouté ce matin dans les entrevues qu'il a données le personnel politique. Et ça, je trouve ça très, très important parce qu'il a besoin d'aller chercher l'adhésion. Si le caucus ne lui donne pas l'adhésion, il ne pourra pas, à mon avis, réintégrer Marois Risky. Un caucus, là, c'est vraiment comme une famille. Et lui, il doit tenir son caucus, il doit sentir que son caucus est soudé derrière lui et veut faire la bataille de la prochaine campagne électorale. Les échos que j'ai ce matin, j'ai fait quelques téléphones, là. Les échos que j'ai, c'est que le caucus n'est pas nécessairement prêt. Bon, toutes les discussions n'ont pas eu lieu, puis j'ai pas parlé à tout le monde. J'ai quand même parlé à suffisamment de personnes pour me dire que le caucus n'est pas prêt à accueillir Marois Risky. Bien conscient, par contre, que c'est une femme qui a énormément de charisme. Elle a une notoriété impressionnante.
Ouais, très aimée dans la population.
Très aimée dans la population, très aimée dans les médias aussi, et elle a un visage de l'intégrité. Mais le chef doit aussi considérer que s'il n'a pas son caucus avec lui, ben il y a rien qui peut se faire là, parce que les étapes, on parle du caucus, on parle des militants, puis on parle de la population. Alors il y a énormément de travail à faire, et s'il ne sent pas que le caucus est d'accord, il faut dire que le caucus a été très blessé, perturbé par pas parce qu'ils enlèvent des talents à Marois Risky, parce que ses talents sont certains là, en chambre, là, c'est une machine incroyable, là. Mais ils ont de la difficulté à comprendre son modus operandi, la manière dont elle a manœuvré dans ce dossier-là. Et toutes les nouvelles aussi qui sortaient les unes après les autres, le calendrier de l'Avent, ça ne veut pas dire que c'est elle là, qui alimentait le calendrier de l'Avent, mais il y avait toujours quelque chose qui sortait et il ne réussissait pas à comprendre le fond de l'histoire.
Oui, mais en même
c'est
temps,
ça aussi qui est un problème.
Même si ça crée un problème au caucus, on va s'entendre du côté de Charles Milliard. Il y a aussi l'aspect opinion publique, puis rapidement oui, avoir une bonne opinion publique dans la population. Dans un cas comme celui-là, c'est quoi qui est plus important? Garder l'appui de son caucus ou dire on va aller chercher directement une bonne opinion du public, puis on va faire comprendre que, parce que l'opinion du public, comment l'histoire est dessinée, c'est un peu on donne le blâme à l'administration qui était à place, Pablo Rodriguez et Geneviève Hinze, c'est-à-dire on met l'histoire derrière, on ramène Marois Risky, puis on prend une bonne opinion publique directement. Est-ce que ça pourrait être une stratégie également?
Ça peut être une stratégie également. C'est là où ça sera très difficile pour le chef de trancher. Mais moi, je vous donne mon humble opinion sur la question. Dans l'état actuel des choses, dans la campagne électorale, pour la campagne électorale, excusez-moi, qui est à venir, il y a quand même une importance d'écouter le caucus. Il va prendre sa décision. Et lorsqu'il l'aura prise, la décision, là, il faudrait que tout le monde accepte que le chef a pris sa décision. Maintenant, oui, dans l'opinion publique, c'est une femme qui est très, très, très appréciée, et je pense que ça aussi, vous le dites très bien, ça entre dans la balance. C'est pas une décision qui est facile à prendre. Est-ce qu'elle-même aussi a manifesté le désir de revenir au caucus? Il y a aussi deux autres éléments qui pourraient freiner son retour. Le premier, c'est la poursuite qu'a intenté Geneviève Hinze, l'ancienne chef de cabinet qui a été congédiée par Marois Risky. On se souvient qu'elle intente une poursuite de 500 000 $. Donc, c'est judiciarisé, c'est devant les tribunaux. Et le deuxième point, c'est qu'on apprenait la semaine dernière que la commissaire à l'éthique s'intéresse à une activité qui s'est tenue dans son bureau de comté. Elle est en congé de maternité, c'est ce qu'elle a déclaré. C'est-à-dire quelqu'un est allé chercher dans son bureau de comté des formulaires d'adhésion, de membership et de l'argent. Et normalement, un bureau de comté ne peut pas faire ce genre d'activité-là. C'est une activité qui est partisane. Alors, ça se fait à l'extérieur du bureau de circonscription. Alors, il y a ces deux éléments-là, mais on va le savoir cette semaine. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la décision serait prise rapidement pour, après ça, on continue puis on passe à un autre appel.
Madame Saint-Pierre, en terminant, juste un petit mot sur la commission Galin. Est-ce que Geneviève Guilbeault va démissionner, oui ou non, après ce rapport?
C'est un rapport qui est vraiment, à mon avis, dévastateur pour la CAQ. Pourquoi? Parce que Mme Guilbeault a dit sous serment en commission d'enquête qu'elle avait appris la catastrophe lors du dépôt de la vérificatrice, du rapport de la vérificatrice générale, alors qu'elle savait, enfin, son cabinet, son équipe, tout le monde autour d'elle, et elle, fort probablement, le savait depuis 2023. Et ça, c'est très, très dommageable pour son image. Est-ce qu'elle va démissionner? Bien, ça lui appartient. Mais vraiment, là, c'est grave ce qui a été dit, ce qui a été écrit dans ce rapport-là. Et même le bureau du premier ministre aussi a été éclairé en 2023. Et mon chef de régie, le député libéral là, qui a piloté ce dossier-là...
Ça tombe bien, il est dans le hall d'accueil. C'est lui qui s'en vient en studio après vous, Mme Saint-Pierre.
Bon, ben, vous le saluerez de ma part. Puis lui, il parle du fractionnement. Il dit que le rapport n'a pas analysé la question du fractionnement de 200 millions et quelques pour que ça soit les plus petits montants pour éviter là, que une déclaration...
Éviter les appels d'offres.
Oui, et ça, je pense que c'est aussi très, très grave que ça a été fait comme ça. Et ça, il faut pas oublier, ça a été fait pendant la campagne électorale en septembre 2022.
En effet, Madame Saint-Pierre, c'est toujours un bonheur de vous parler. On adore bénéficier de votre expérience et on se reparle bientôt.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Merci. Christine Saint-Pierre, ex-ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine sous le gouvernement de Jean Charest. Vous venez de l'apprendre pendant l'entrevue. Mon chef d'éragie. Excellent porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de transport et dans le hall d'accueil. On va aller le chercher pendant la pause. On l'amène en studio et on continue notre analyse de ce rapport de la commission Galant à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Émission On en jase, on continue notre couverture pour ce qui est du rapport du commissaire Galant, le juge Denis Galant, qui a déposé 600 pages de rapport. Et s'il y en a bien un, Antonine Niaccarini, qui est de retour avec nous pour cette entrevue. Anto, c'est le fun que tu sois là.
Ben, je ne voulais pas manquer ça.
Ben non. Et s'il y en a bien un que je sais qui fait son travail de façon rigoureuse, hey, il nous a dit en plus qu'il était amateur du caucus.
Ah ben là.
Hein? On est choyé. Mais je sais très bien qu'il fait son travail de façon rigoureuse. Il a participé au huis clos. Il est prêt à commenter. Il est en studio avec nous. C'est le porte-parole en matière de transport pour le Parti libéral du Québec, Monsef Déragi. Monsieur Déragi, merci beaucoup d'être en onde avec nous aujourd'hui à 13h32.
Ben, merci à vous deux. Je suis vraiment très content de sortir avec le rapport tout chaud pour venir m'entretenir avec vous.
Excellent. On a parlé beaucoup avec Antonine tout à l'heure dans le caucus de l'imputabilité auprès de la SAC, mais moi, je veux tout de suite vous attaquer au niveau politique.
Oui.
Est-ce que Geneviève Guilbeault doit démissionner parce que elle n'avait pas de souvenir expérientiel d'eux, mais est informée là, des dépassements de coûts?
Et pas uniquement Mme Guilbeault, parce que je vais vous lire un bout intéressant. La page 21 du sommaire. Et je dis parce qu'il y a plusieurs documents déposés aujourd'hui. Il y a les annexes, le sommaire et le rapport en entier. Le rapport en entier, c'est plus de 600 pages. Mais je remercie les membres de la commission. Ils nous ont fait un sommaire qui est vraiment bien. Page 21. Quant à Éric Kerr, il est aussi informé en août 2020 du report d'échéancier. Il devient à ce moment-là inquiet de la suite, mais s'impliquera très peu après coup. Ainsi, la commission constate que, à la fin de l'été 2020, certains membres du gouvernement sont informés du fait que le déploiement de la livraison 2 du programme CASA est reporté. Quand les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je viens vous dire que c'est reporter une livraison. ce que vous devez savoir, un report de livraison implique, à part l'échéancier, un coût supplémentaire.
C'est clair. Un plus un fait deux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en ondes avec Antonine.
Ça, c'est Éric Kerr. Maintenant, M. Bonnardel, et j'ai vu son tweet récemment, on nous a menti, on vous a menti. M. Bonnardel, je vous invite à lire le sommaire, page 23. La SAC n'est pas toujours transparente, ça, c'est, ils l'ont dit. Éric Ducharme, nul cabinet mise des transports, François Bonnardel, de ses répercussions finales. Et se fait rassurante auprès de la SAC, communique pour la première fois le budget total du programme CASA au cabinet de François Bonnardel en janvier 2021. M. Bonnardel, quand il s'est levé au Parlement pour répondre à ma question au mois de mars 2025, il disait « on nous a menti, on vous a menti ». M. Bonnardel ne peut pas maintenir la même ligne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a eu une présentation du programme CASA et le report et le budget en janvier 2021. La suite, bah vous le savez, Mme Guilbeault, M. Koskinen, le chef de cabinet de M. Le Premier ministre, ainsi que Dominique Savoie, ils ont très bien documenté les augmentations de coûts.
Mais on comprend quand même que la SAC donnait jamais vraiment le portrait, qu'il y avait une volonté de mettre les choses un peu plus belles qu'elles étaient. Ça, ça fait aussi partie de la problématique, là.
Oui, mais moi, je réponds à la question qui vient d'être posée. Ça n'exclut pas que la SAC a aussi envoyé
les
de l'information.
Les deux ont
cohabité, là. Oh, oui, les deux, là. Je ne dis pas. D'ailleurs, je blâme le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous voulions, au Parti libéral du Québec, interpeller la SAC en fonction des outils parlementaires que nous avons, que vous connaissez très bien. Mais le gouvernement a voté contre. Pourquoi ils ne nous ont pas donné accès à interpeller les membres? S'ils voulaient vraiment nous aider à faire notre travail. Donc aujourd'hui, oui, je blâme la SAC. Mais écoutez, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas voté pour la SAC pour nous gouverner. Les gens qui nous écoutent n'ont pas donné un mandat majoritaire au gouvernement caquiste. S'il y a quelqu'un qui doit être imputable aujourd'hui, c'est le gouvernement et les ministres responsables.
Bien, d'ailleurs, parlant d'imputabilité, on dirait que la responsabilité est partagée. Il y a comme plein de petits morceaux dans les mains de tout le monde. Là. Qui, dans les prochaines années, avec les recommandations qu'il y a dans le rapport, là, mais par exemple, si vous gagnez la prochaine élection, vous êtes au ministère de la Santé, puis là, vous devez faire un projet numérique. Premièrement, vous êtes terrorisé parce que tout le monde va être terrorisé maintenant de finir en commission d'enquête parce que les projets informatiques finissent souvent vraiment très mal. Mais est-ce que c'est le ministre qui est responsable du ministère dans lequel il y a le projet qui doit être responsable, ou est-ce que ça devrait être le ministère de la cybersécurité et du numérique? Est-ce que c'est le premier ministre? Parce que s'il n'y a pas une personne finalement responsable, personne n'est responsable.
Ben, vous avez raison. D'ailleurs, parmi les bonnes recommandations de la commission, c'est justement, il n'était pas chaud à l'idée de créer une nouvelle structure. Et je sais que la CAQ aime ça, les nouvelles structures. Je leur dis déjà, il vous dit que c'est une mauvaise idée. Le point sur lequel il a beaucoup insisté le juge, c'est dire, donnons les moyens au ministère de la cybersécurité. Lui, il parlait d'un Tiger Team, vraiment une unité.
Des gens compétents.
Absolument, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne le budget et que ça devient un peu le chien de garde des transformations numériques. Ceci étant dit, il propose d'autres ajouts, le juge. C'est renforcer la gouvernance des sociétés d'État. Et là, vous le savez qu'il y a des gens qui étaient au conseil d'administration que pour eux, parler IT ou transformation numérique, c'est du chinois. Donc, il dit que si vous avez une transformation numérique, assurez-vous d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Donc, améliorer la gouvernance, se doter des gens compétents à l'intérieur du conseil d'administration. Et écoutez, pour parler d'imputabilité, vous avez raison de la mentionner, clarifier la responsabilité des ministres qui ont tutelle ces sociétés d'État. Parce que parfois, on dit j'ai cette société d'État sous ma responsabilité, mais quelle est l'imputabilité, quelle est la responsabilité de ce ministre quand ça ne fonctionne pas ou quand ça ne marche pas à l'intérieur d'une société d'État? Mais il y a pas mal de très bonnes recommandations. J'espère que le gouvernement va les mettre en place. Ça touche la gouvernance des sociétés d'État. Ça touche le ministère de la cybersécurité et du numérique pour lui donner plus de pouvoir et des moyens et aussi renforcer le rôle des chiens de garde, l'autorité des marchés publics.
Êtes-vous inquiet par rapport aux transformations numériques qui ont importance à l'heure actuelle? Je pense par exemple à santé numérique avec ce qui vient de se passer à Satlic puis les dépassements de coûts qu'on sait déjà dans les autres programmes.
Ben, je pense qu'il y a déjà un dépassement de coûts au niveau du ministère de la Santé. Ça a été déjà publiés et je pense qu'ils sont en train d'arrêter l'hémorragie. Mais j'espère que le gouvernement, à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit à l'erreur. D'ailleurs, ils doivent revoir les processus de gestion de contrats, de gouvernance dans les sociétés d'État, renforcer le rôle du ministère de la cybersécurité et du numérique. Ça, c'est un point qui est essentiel et que les ministres soient imputables. Parce que sinon, comment on va regagner la confiance du public? Mettez-vous à la place des gens qui nous écoutent. On a perdu 1 milliard, c'était confirmé aujourd'hui par la SAC. 1 milliard, la transformation numérique, mm-hmm. pour un site transactionnel. Et là, on leur dit, on va informatiser le ministère de la Justice, on va informatiser le ministère de la Santé, vos prises de sang, on va tout informatiser. C'est obligatoire l'informatisation, la digitalisation. Et le commissaire ne dit pas qu'il faut arrêter. Mais si on ne met pas les bonnes structures en place, on risque de revivre un autre scandale cyclique.
Et comment on fait pour attirer des gens compétents au gouvernement? Parce qu'on le sait, ce n'est pas attractif pour les top guns informatiques d'aller travailler au gouvernement. C'est très en retard au niveau des technologies. Il y a des fois des conditions de travail plus intéressantes pour les experts en TI dans le privé. Comment on va faire pour les attirer?
C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'on n'a plus le choix. Pourquoi? Avec ce qu'on vient de vivre avec la SAC, si l'État québécois, les contribuables, veulent vivre d'autres drames, de fiascos, de dépassements de coûts, je pense qu'on a la meilleure recette. C'est la recette qui a été utilisée les dernières années. Et ça a donné un fiasco. Et on ne peut pas ne pas faire de transformation numérique. Vous savez, continuer à travailler avec des fax, que le réseau de la santé ne parle pas, il ne communique pas, les médecins entre eux, avec les pharmaciens, avec les autres intervenants, c'est très difficile et c'est très complexe et il y a un coût associé à cela. Maintenant, est-ce qu'on veut se doter d'un vrai chien de garde? Ça a été dit. Renforcer le ministère de la cybersécurité, trouver des moyens d'attirer les talents? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, nous avons des compagnies en technologie de l'information qui ont des budgets qui parfois dépassent les budgets d'État. Donc, ils maîtrisent l'art de la technique, donc le langage, SAP et autres. Toutes les compagnies, ils ont des experts. Ils savent c'est quoi le besoin, ils savent comment vendre ce besoin et c'est là où probablement il y a une lacune au niveau de l'administration publique, c'est avoir les ressources compétentes pour pouvoir négocier et échanger sur le même pied d'égalité avec ces ressources.
Donc, vous êtes d'accord qu'on va devoir investir un peu pour justement réussir à arrêter de perdre l'argent dans des contrats informatiques. Là, on parle de dépassement de, ouais. 500 millions.
Moi, j'ai la blague. C'en prenons les trois meilleurs au Québec, donnons-leur 10 millions par année, puis on ne perdra pas un milliard.
écoutez, 10 millions, c'est, je ne sais pas c'est quoi le montant, mais clairement, si on continue de faire ce qu'on faisait depuis la création du ministère de la cybersécurité numérique, on s'en va vers le mur. Ouais. C'est ça le constat. Mm-hmm. On ne peut pas continuer à fonctionner de la même façon que le ministère de la cybersécurité fonctionnait. Il faut lui donner beaucoup d'outils, il faut lui donner beaucoup de pouvoir. Et ça a été mentionné dans le rapport, les autres sociétés d'État au ministère doivent parler davantage et impliquer les experts de ce ministère.
Pour rappel, on parle avec Monsef Déragé, qui est député de Néligan et porte-parole en matière de transport et de santé. On fait le tour du rapport de la commission Galant. Monsieur Déragé, je veux que vous tranchiez sur un débat que j'avais avec Antonine Iaccarini tout à l'heure. Moi, je disais, il faut réintégrer Marois Risky dans le caucus libéral. Elle est très populaire auprès de la population et elle a décrié de la corruption qui s'est faite dans l'équipe de Pablo Rodriguez. Antonine disait, wow, minute, elle n'a pas joué en équipe. Le caucus ne peut pas le reprendre. On vient de parler à l'ex-ministre Christine Saint-Pierre qui me dit, le caucus avant tout. Donc là, je perds 2-1. Est-ce que je vais perdre 3-1 avec M. Déragi?
Je risque de vous décevoir.
Allez-y donc.
Ce n'est pas un débat facile, c'est un débat qu'on va avoir et je dois respecter la confidentialité des discussions au sein du caucus.
C'est clair.
Et écoutez, la seule chose que j'ai à vous dire là, j'ai beaucoup de collègues autour de la table qui sont très intègres et rigoureux. Et écoutez, c'est une discussion qu'on va avoir en caucus avec notre chef.
D'accord. Mais ça vous a fait mal quand même, sa sortie comme ça, de la façon qu'elle l'a fait?
Non, écoutez, nous avons vécu tous des moments très difficiles le temps dernier. Il ne faut pas se le cacher. Et le chef Charles Millière, hier, l'a très bien dit. Il ne se cache pas. Là, maintenant, on a une job à faire. On a une campagne électorale à préparer. Le chef, il est prêt. Il est prêt. Et il veut vraiment avoir une bonne plateforme parce que les Québécois s'attendent du Parti libéral, un parti rigoureux avec des bonnes propositions. Regardez ce qui se passe au niveau des finances publiques, au niveau des missions essentielles de l'État. Les Québécois s'attendent de nous, s'attendent du Parti libéral d'être là. Et on va être là.
Ça va être un défi quand même de tourner la page, parce que je me doute que vous avez tous hâte de tourner la page, mais il y a quand même pas mal de choses encore en suspens, notamment une enquête de l'UPAC, la poursuite de Mme Risky et de Mme Hinze. Donc, ça va continuer de flotter un peu dans les airs. À posteriori, quand on revisite un peu ce qui s'est passé pendant la crise, est-ce que Mme Risky aurait dû, peu importe ce qui s'est passé et ses raisons, est-ce qu'elle aurait dû impliquer M. Rodriguez dans sa décision avant de mettre la directrice de cabinet à la porte?
Écoutez, je n'étais pas là dans les discussions entre Mme Risky et M. Pablo Rodriguez. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé entre les deux. Donc, ça serait pour moi pas rigoureux, et vous me connaissez, quelqu'un de très rigoureux, de commencer à interpréter ou commenter une situation où je n'étais pas juge, où je n'étais pas témoin. Ce qui s'est passé entre les deux reste entre les deux. Il y a un processus judiciarisé maintenant. Je dois me garder le réserve de ne pas commenter un processus qui est judiciarisé. Oui, il y a des enquêtes. On va attendre les enquêtes. Ceci étant dit, on vient au Parlement pour livrer et pour travailler pour les Québécois, les 9 millions de Québécois. Et les 9 millions de Québécois demandent au Parti libéral de faire son travail, de contrôler l'action gouvernementale. Il y a un budget qui se prépare. Il y a l'état des finances publiques que les gens n'aiment pas et l'état du service, que ce soit la santé ou l'éducation. Et c'est ce qu'on va continuer à faire.
Monsieur les régions, on vous remercie infiniment pour votre présence en studio aujourd'hui. C'est très, très, très apprécié. On souhaite une bonne continuité. Vous allez faire beaucoup d'entrevues aujourd'hui, j'imagine?
Je pense que le dossier s'impose.
On est choyé de vous avoir eu en premier ici en studio à Boulevard 101. Merci de votre présence.
Merci à vous.
Après la pause, on parle avec Alex Laramé, chronique Jeux olympiques, parce que médaille d'argent aujourd'hui pour les Canadiens. Puis on va revenir évidemment sur ce très beau tournoi de hockey. Êtes-vous devenu fan de Macklin Celebrini, M. Desragées?
Désolé, j'ai été comme l'impression que j'ai terminé.
Ouais. Oui. Là. Êtes-vous devenu fan de Macklin Celebrini, le jeune joueur de 19 ans de hockey?
Absolument. Ah, absolument. Oui, hein? Et je dirais, je tiens à saluer la performance de nos joueurs, de nos athlètes, oui, aux Olympiques. Sérieux, hier, la médaille d'or,
oh,
là,
de Michael Kingsbury.
Ça a été. Et surtout, ça arrive qu'après qu'il a presque pas perdu, parce que j'ai senti un peu de, pas de déception, mais la médaille d'argent, oui, c'est une médaille d'argent quand même, et je le félicite. Mais gagner une médaille d'or de cette façon, waouh, c'était vraiment impressionnant. Ça m'a beaucoup touché hier.
Puis je veux juste vous dire, M. Desragées, que Jeff me fait toujours le coup. Quand je termine mon caucus, je viens pour m'en aller, puis il me lance une question de sport, puis je ne sais même pas de qui il parle. Donc, bravo, vous en êtes bien sorti.
Heureusement, j'ai bien suivi hier, parce que ça m'a touché la médaille d'or, sérieusement. Je l'ai vu parler à plusieurs médias, mais on dirait, ah non, non, valorise la médaille d'argent, on t'aime, on t'aime bien.
Merci, M. Desragées. Alex Laramé, immédiatement après cette courte pause, chronique Jeux olympiques. Émission d'Angeance qui tire à sa fin. 13h50. Le retour de Gravel va suivre à 14h. Il y aura notamment Antonine Iaccarini qui vont venir faire un tour à 16h15 pour parler de la commission Galant. Et l'excellente Paul Lévesque également qui sera présente. Dom Gauthier pour une chronique olympique à 15h. Le temps de vous parler des podcasts hors série. L'espace où plusieurs animateurs de Boulevard 101 prennent le micro pour mener des entrevues longues et approfondies sur une variété de sujets. Et ce soir, 19h, bien, c'est une entrevue que j'ai faite avec Josh Chinoski, qui a vécu l'enfer étant confiné pendant 13 ans chez le pasteur Claude Guillot. Il a été battu à répétition en plus d'être abandonné par ses parents. Manquez pas ce rendez-vous très émotif. Et les podcasts hors série sont présentés par Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la bière de soif parfaite. 3 succursales, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Santé, guys! On s'en va rejoindre immédiatement pour terminer cette émission. Notre spécialiste olympique au 99.5 Montréal, Alex Laramé. Alex, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres, les gars?
Ça va super bien. Alex, on se le cachera pas, Macklin Celebrini. Macklin Celebrini, quel joueur de hockey de Canada qui a passé à travers la première ronde au niveau du hockey masculin de façon très expéditive.
Ouais, ben faut dire que je pense que la victoire là, face à la France faisait pas vraiment de doute. Là, on a vraiment vu la supériorité des joueurs canadiens. Là. Je veux dire, les pauvres Français essayaient, mais c'était tout simplement pas de calibre. Puis le Canada a fini premier au niveau du classement. Donc, on est en bonne position pour l'avancée du tournoi. D'ailleurs, demain, ce sera les matchs de barrage. On va avoir à l'œil le Danemark contre la Tchéquie parce que c'est un de ces deux pays-là qu'on va affronter. On sait la Tchéquie, on les a déjà battus. Danemark, on va se le dire, là, ça ne devrait pas être trop difficile non plus pour le Canada. Donc, on est en bonne position chez les hommes pour aller chercher peut-être seulement la deuxième médaille d'or du Canada. On en a seulement une en ce moment, donc on souhaite qu'il en ramène une autre.
Oui, la seule qu'on a, c'est le King des Basses qui nous l'a donné, Michael Kingsbury. Quelle performance hier après-midi!
Ah oui, écoutez, ça prenait ça. Hein. Évidemment, on l'attendait quand même parce qu'on le sait que c'est le meilleur dans son sport. Là. Je pense pas que ça fait vraiment de doute. Il l'avait échappé avec des technicalités là, à la première épreuve, mais là, à la deuxième, aussitôt que son compétiteur a raté le dernier saut, là, je pense que même lui a pu profiter de la dernière descente en sachant qu'il avait gagné l'or. Puis on va espérer que ça va pouvoir en encourager d'autres. Hein. Les autres, soyez pas gênés, les athlètes. Là. Vous pouvez aller en chercher d'autres médailles d'or, on va les prendre.
Ben, c'est ça que j'allais te dire, Alex. Ça fait du bien parce qu'on aurait dit que sont difficiles d'aller chercher des médailles d'or cette année.
Ben oui, on avait des beaux espoirs, notamment William Dangino, qui pour l'instant, là, on veut pas s'acharner, mais déçoit un peu, aucune médaille. Lui, c'était un espoir de médaille d'or. Là, on a vu Sarah ce matin est allée chercher l'argent, mais ça reste quand même une épreuve où elle aurait pu aller chercher l'or. Donc, même des fois, lorsqu'on va chercher des médailles, on aurait pu avoir quand même de meilleurs résultats, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, les Olympiques. Quand il y a des gagnants, il y a des perdants. Puis c'est la beauté du sport.
Exactement. Courtney Sarrow, qui est quand même la reine des Olympiques présentement au Canada avec 3 médailles.
Ah, mais je pense qu'en ce moment, là, je mettrai un petit 2 que ça va être la porte-drapeau du côté féminin à la fin des Jeux. 3 médailles, pourrait peut-être en ajouter même une 4e. Donc, non, définitivement, elle s'entraîne à Montréal. Elle y a du Nouveau-Brunswick, mais définitivement, je pense que c'est elle qui a les meilleures performances à ces Jeux pour le Canada.
Ce week-end, Laurent Dubreuil a gagné une médaille de bronze aux 500 mètres. Quelle belle façon de terminer sa carrière pour l'athlète originaire de Québec.
Ben oui, 100%. Je pense que les athlètes de Québec, honnêtement, là, vous n'avez pas à rougir. Là, c'est quand même des super belles performances. Demain, on en a 2 autres qui vont être en action. Laurie Blouin en snowboard, slopestyle. Mm-hmm. On a Dylan Deschamps aussi en freestyle, big air chez les hommes. Fait que beaucoup d'athlètes de Québec qui représentent super bien la région. Non, pour vrai, c'est super le fun. Puis Laurent Dubreuil de pouvoir justement terminer sa carrière avec une médaille, c'est tout à son honneur.
Et en terminant, on surveille cet après-midi, 15h10, le Canada contre la Suisse en hockey féminin. Normalement, le Canada devrait accéder à la finale contre les États-Unis.
Ouais, on s'entend que la logique devrait être respectée. Les États-Unis ont disposé facilement de la Suède 5-0 un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on s'attend que les Canadiens devraient faire la même chose. Puis avoir le match de la médaille d'or qu'on attendait. Mais ça va être difficile d'aller chercher l'or. D'après moi, on peut s'attendre à l'argent dans cette compétition.
Ouais, on va avoir la chance d'en reparler cette semaine parce qu'Alex va être avec nous tous les jours cette semaine, encore une fois, pour des chroniques Jeux olympiques. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
Ben, avec grand plaisir.
Salut Alex Laramé. Alex Laramé, excellent. Journaliste pour le 99.5 Montréal. Mathias, ça a passé un coup de vent, cette émission-là.
Ça a roulé.
C'est déjà la fin. Ceux qui ont manqué des bouts, ça va être disponible sur le blvd.fm. C'est la meilleure façon d'aller écouter le tout. En attendant, téléchargez l'application. Le retour de Gravel s'en vient à l'instant même à 14h. Bye-bye, guys.
Bonne journée.